Matcha. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de nos aventures radiophoniques Too Much, la chronique culturelle ou contre-culturelle, comme vous préférez. Émission un peu particulière ce soir, comme ça nous arrive de temps en temps. L'intégralité de l'émission et les chroniques habituelles vont faire la place à un entretien, un long entretien. Et je suis ravi, vraiment particulièrement ravi de recevoir l'invité de ce soir. C'est l'essayiste, cinéaste, romancier, entre autres choses, Pacôme Thielemans, qui va être l'invité d'honneur de l'émission. Alors Pacôme Thielemans, donc, qui est né en 1975, qui est actif depuis très très longtemps, puisqu'à l'âge de 15 ans, il était déjà aux manettes d'un fanzine, plus qu'un fanzine, c'était beaucoup plus professionnel que ça, consacré à la bande dessinée, qui s'appelait Réciproquement, où il a réuni de nombreux auteurs de bande dessinée qui sont plus tard devenus des membres de ce qu'on appelle l'association, donc des auteurs majeurs de la bande dessinée française. Et puis ensuite, Pacôme Thielemans, qui est féru de musique, a consacré plusieurs essais donc, à des musiciens comme Frank Zappa, les Beatles ou encore Led Zeppelin. Et ensuite, il s'est consacré depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années à ce qu'il a lui-même nommé l'exégèse pop, c'est-à-dire l'analyse des œuvres pop culturelles, mais comme s'il s'agissait d'une certaine manière d'écrits ou de travaux sacrés qu'il s'agirait d'analyser comme on analyse donc un texte sacré. Ça donne un corpus absolument passionnant dans lequel on va rentrer un petit peu dans le détail ce soir. On va évidemment largement consacrer l'entretien de ce soir à la dernière sortie en date de Pacôme Thielemans. C'est l'essai consacré au cinéma qui s'appelle Cinema Hermetica, qui est sorti là au tout début du mois de janvier de cette année. Mais on va un petit peu parler aussi, bien entendu, de ce qu'il a fait avant. On va tout de suite entamer l'émission avec une petite pause musicale d'emblée. On va écouter un groupe qui s'appelle Secret Shifts Free, et un peu plus tard dans l'entretien, vous verrez, on fera référence au maître d'œuvre de ce groupe qui s'appelle Trey Spruance, qui est un musicien que Pacôme Thielemans admire particulièrement. C'est parti tout de suite pour Secret Shifts Free avec la reprise du thème de Halloween, le célèbre film de John Carpenter, et on retrouve Pacôme Thielemans juste après le morceau. C'est parti pour les Secret Shifts Free.
Pas comme Thielemans, bonsoir.
Bonsoir.
C'est une immense joie pour nous de vous avoir ici à l'émission sur les ondes de Shibeo Kobotsa.
Joie est partagée.
Bon, merci beaucoup. Alors, on va évidemment consacrer une large part de l'émission à votre dernier ouvrage qui est paru donc au tout début du mois de janvier, qui s'appelle Cinema Hermetica. Mais auparavant, j'aurais souhaité vous poser deux, trois questions sur votre corpus antérieur, on va dire.
Bien sûr.
Alors, j'aurais souhaité vous poser une question qui concerne votre tout premier ouvrage qui s'appelle Poppermost, qui est consacré en fait au, on peut dire, au mythe de la mort de Paul McCartney dans les Beatles.
Oui, absolument.
Alors, je crois savoir que vous-même, vous n'êtes pas tout à fait satisfait rétrospectivement de cet ouvrage, mais
oui.
J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui, dans cet ouvrage, annonce les suivants, en quelque sorte. Est-ce que c'est dans cet ouvrage-là que d'emblée vous trouvez ce concept qui est un peu votre marque de fabrique d'exégèse pop, pour le dire très vite?
Eh ben, en fait, à la fois, oui et non. Mais je veux dire, je suis le plus mal placé pour parler de mon premier livre, dans le sens où on peut pas faire quelque chose et être vraiment capable de l'interpréter a posteriori. On est toujours meilleur sur les autres que sur soi-même. Donc, par rapport à ce premier livre, le truc, c'est que si je l'ouvre, et si je me balade dedans, je suis absolument effaré par l'usage intempestif que je fais de beaux... saugrenu. je trouve qu'il manque terriblement de sobriété. Maintenant, on me critiquera, on dira, mais tes derniers livres aussi, imbécile, il manque de sobriété. Oui, mais j'en peux moins le voir. Donc du coup, le caractère, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis Poppermost. À l'époque où j'avais écrit Poppermost, je n'avais pas encore rencontré ce qu'on peut dire être les termes sont souvent galvaudés ou sont souvent impropres, mais en tout cas comme des maîtres, en tout cas des lectures qui m'ont véritablement appris à organiser mes idées et à les articuler de façon qui me semble plus cohérente. J'étais un peu à l'époque de Poppermost et des premiers livres un peu comme un chien fou à vouloir me dépatouiller avec ce qui me semblait être la multiplicité d'interprétations possibles d'une œuvre d'art dans la culture pop, et surtout le fait qu'elle soit quasiment, comme offerte au spectateur, à l'auditeur, au lecteur, dans une complicité très nette avec l'artiste, en l'occurrence les Beatles, qui ont laissé ouvert un grand pan d'interprétations possibles. Je pense toujours avec émotion à cette interview de John Lennon où l'intervieweur lui dit les fans ont tendance à voir dans tes chansons des choses qui ne sont pas, et où Lennon lui répond bien sûr qu'elles y sont, elles y sont toutes et lui-même admet n'être pas la meilleure personne pour pouvoir dire tout ce qu'il y a dans ses chansons, étant donné il dit quand on écrit quelque chose c'est comme si on phosphorait. Enfin, il a une espèce d'image, de plante ou de...
Ouais.
où il voit que quelque chose est en train de pousser et il y a énormément de pensées qui le traversent au moment où cette chose est en train de se faire. Et lui-même n'a plus le souvenir de toute l'articulation qui amène les idées à venir à jour. C'est quelque chose qu'on a déjà chez Rimbaud, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Lynch, et c'est comme ça, en tout cas, que j'interprète le refus qu'il a d'interpréter lui-même ses films dans ses interviews. Ajoutant à ça qu'il y a quelque chose d'un peu plus pervers dans le cas de Lynch, c'est que l'appel à l'interprétation de son spectateur est inclus à l'intérieur de ses films.
Absolument.
Donc du coup, ça fait partie presque de son art poétique que de dire, comme son personnage Gordon Cole, enfin à l'extérieur de ne rien vouloir donner, mais à l'intérieur de tout donner.
C'est amusant que vous fassiez référence à cette interview de John Lennon dans laquelle je crois que vous revenez dessus dans l'un de vos livres plus récents, dans Pop Yoga, je pense.
Absolument.
Beatles, parce que ça c'est quelque chose, je crois, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui comme vous est dans un délire interprétatif, pour le dire très très rapidement, on a toujours des lecteurs qui disent mais comment avez-vous l'assurance que l'auteur a voulu dire ça, alors que c'est une fausse question. Est-ce que vous pouvez repréciser un peu ça, en fait?
Bien sûr, parce qu'en fait, vous savez, c'est probablement la critique qui revient le plus souvent.
D'accord.
Elle est à un point que, par moment, je me demande à quel point c'est pas presque un trait de l'homme moderne de penser que à chaque chose, est attribuée une seule signification.
Absolument.
Le fait que ce qui nous apparaît dans la vie soit de nature multiple et soit interprétable de plusieurs façons est peut-être la chose la plus effrayante qui soit.
Oui, absolument.
Peut-être que là, c'est quelque chose, c'est de l'ordre de comment dire d'une réaction viscérale. On veut pas que, par exemple, notre chat soit un chat, mais aussi, mettons, un guide un guide envoyé par les dieux pour.
Bon, c'est bien, nous voilà déjà dans l'égyptologie à fond, c'est bien.
Attendez, j'en descends. Je laisse l'Égypte 5 minutes.
Alors,
fuyons l'Égypte quelques instants. Pour dire, la question de la multiplicité d'interprétations, et surtout le fait que est-ce que c'est ce que l'auteur a voulu dire n'est pas une bonne question. Pour moi, ça tient en fait de quelque chose qui est presque une sorte, dans cette réaction viscérale, il y a presque un élément théologique qui est en fait le fait vous savez, c'est toute cette histoire finalement dans l'histoire des monothéismes, le combat pour l'interprétation juste du texte.
Ouais. Et l'orthodoxie, en fin de compte.
L'orthodoxie, exactement. C'est une histoire de l'orthodoxie. En fait, on pourrait dire, dans cette angoisse que par rapport à ça, on soit dans l'hérésie, ou on soit dans l'erreur, vient presque démontrer le caractère religieux de la culture pop.
Ouais, je comprends.
C'est ça qui est intéressant et curieux et complexe.
Alors, en parlant de complexité, pour avancer un tout petit peu dans votre corpus, je voulais aussi m'arrêter sur deux livres qui sont très très différents, mais qui abordent des sujets voisins. C'est les deux livres que vous avez consacrés à deux séries télé absolument immenses, d'ailleurs, dans l'histoire de la télévision, que sont donc La main gauche de David Lynch, que vous avez consacré à Twin Peaks, son chef-d'œuvre télévisuel, enfin avec Mark Frost, il n'est pas tout seul, David Lynch quand même, et ensuite Les mêmes yeux que Lost, qui est consacré donc à la série de J.J. Abrams, Damon Lindelof et Carlton Cruise. Je voulais savoir, en fait, j'ai l'impression que surtout à la lecture de Cinéma Hermética, en fait, rétrospectivement, j'ai l'impression que vous assignez deux fonctions très très différentes à la fiction télévisuelle et à la fiction cinématographique. Si je résume très grossièrement, j'ai l'impression que vous nous dites que la fiction cinématographique est tout à fait adéquate pour indiquer ou alerter, on va dire, le spectateur sur ce que vous appelez, à la suite d'un René Guénon par exemple, la contre-initiation. Alors que la série télévisée, de par sa longueur, de par ses spécificités aussi de diffusion, la fréquence, la longueur aussi du récit, elle est plutôt faite d'une certaine manière pour permettre de narrer des récits d'initiation, par contre, d'être de véritables pôles d'initiation, comme vous le dites vous-même. C'est un peu ça la différence que vous faites entre les deux ?
Alors, je n'aurais pas vu de façon aussi claire.
Ouais, c'est un peu catégorique.
Parce que j'ai un peu trop le nez dans le guidon, mais je trouve que cette différenciation est lumineuse. Oui, il y a quelque chose d'incroyablement juste dans la façon dont vous synthétisez ça. J'aurais pas dit mieux.
J'ai l'impression que vous le dites presque dans ces termes-là, dans Cinéma Hermética. Je ne sais plus à l'occasion de quel texte, ça va peut-être me revenir en cours d'interview, mais j'ai vraiment l'impression que vous avoir lu le dire très précisément comme ça.
Je vois à quoi vous faites allusion.
D'accord.
Bon, pour les auditeurs, ça risque d'être un peu cryptique.
C'est pas grave, ils ont l'habitude.
De rentrer dans le détail, mais oui, c'est dans le texte sur Shining, et en effet, il y a c'était complexe pour moi d'arriver à articuler cinéma et séries télévisées, surtout que certains films de cinéma sont dans une dimension qui tend vers la dimension initiatique. Je pense en particulier au film de Jacques Rivette. Et c'est peut-être lié à la durée aussi. C'est peut-être lié au fait qu'on a l'impression, en fait, ça c'est Pierre Thévanian qui avait dit ça sur Céline et Julie vont en bateau, et je lui ai emprunté cette idée, que Céline et Julie vont en bateau était comme le premier épisode d'une série. Où Céline et Julie, en bonne pré-Buffy Vampire Slayers, pourraient aller résoudre des cas d'envoûtement ou de démonologie à différents lieux. Puisque il y a presque la même fonction allégorique dans le récit de Céline et Julie vont en bateau de la maison de, de la rue du Nadir aux pommes. Mm-hmm. Et dans un épisode de Buffy, mettons, ou dans une saison de Buffy, un Big Bad. Mm. C'est des figures de la domination. Mm. Et donc, il pourrait y en avoir comme ça, elle pourrait s'en faire plusieurs. Ouais. Julie. Mm. Et d'une certaine façon, avec la bande des quatre, il y a l'idée que cette série pourrait reprendre génération suivante. C'est presque comme, je sais pas, comme avec Star Trek, les nouvelles générations.
Oui, je vois.
On a un gang de une nouvelle génération de super-héroïnes qui arrivent et qui reprennent le boulot des précédents. Il y a presque cette impression-là que c'est, en tout cas, tout ça est en germe.
Ouais.
Et que, mais je dois préciser qu'en fait, il s'agit quand même malgré tout. Il faudrait vérifier. J'improvise là.
Oui.
Et ça me semble malgré tout plutôt une initiation de type chevaleresque, mmh. de type guerrière.
Ouais.
Qui est rendu possible et dans ces films et ensuite dans certaines séries comme celle de Buffy.
Mm.
C'est vraiment dans Lost et peut-être The Leftovers. Il faudra voir comment se déroule cette série.
Oui, quand elle sera
achevée. On a le type d'initiation en fait de type brahmanique, qui est beaucoup plus délicat à mettre en scène, beaucoup plus difficile puisqu'il s'agit, il ne s'agit plus d'agir.
Mm. Est-ce que vous diriez que... Pardon, excusez-moi.
Non.
Est-ce que vous diriez que, au niveau de ces deux livres, donc consacrés respectivement à Twin Peaks et Lost, là vous aviez quelque part, par rapport aux trois livres que vous avez consacrés à la musique, hein, donc Poppermost, puis le livre sur Zappa et le livre sur Led Zeppelin, est-ce que là vous diriez que vous avez trouvé votre voix, vous avez en quelque sorte trouvé vos maîtres, si j'ose dire?
Absolument. Ça s'est joué en fait à l'époque de Kabbalah, le livre sur Led Zeppelin, ouais. Et ça devient en fait la forme de type d'exégèse. Que depuis, j'ai pas réussi à renouveler, apparaît vraiment à partir de la main gauche de David Lynch.
Mmh.
Je pense que ce sont les mêmes techniques qui sont en place depuis la main gauche de David Lynch que sur Cinéma Hermetica.
D'accord.
Dans la main gauche de David Lynch, les mêmes yeux que Lost, un certain nombre de textes de Pop Yuga et Cinéma Hermetica, en tout cas, j'ai la même pratique.
Mmh.
J'ai la même pratique, même concrètement, c'est-à-dire que quand je prends un objet cinématographique, je commence par faire le plan, voir la durée des séquences, essayer de comprendre presque de façon comment le film est architecturé ou la série est architecturée, ouais. Et tous ces trucs-là. Et c'est
Une méthodologie maintenant, en quelque sorte.
Oui, une méthodologie, voilà, exactement.
Mmh.
Méthodologie qui n'apparaît pas dans les livres, hein, qui est pour moi ma cuisine interne pour pouvoir commencer à m'y mettre.
Mmh.
Et en amont, évidemment, les lectures clés ont été faites à ce moment-là, c'est-à-dire René Guénon, Henri Corbin, et puis tout le fond Islam Shit Studio Décimin qui a été absolument ça et Indien ont été centrales pour ça.
Mm.
C'est-à-dire que c'est très clair que sans les lectures de Sohrawardi, d'Ibn Arabi, de Rumi ou des textes des Védas, de la Bhagavad Gita, je serais incapable. Mes yeux ne seraient pas les mêmes.
Mm. Est-ce que vous compteriez dans le nombre de ces maîtres le musicien californien Trace Pruance, que les auditeurs de notre émission connaissent un peu, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été important, non, dans votre parcours.
Très très important.
Mm.
C'est à un point qu'il est difficile même pour moi de le dire à quel point.
Mm.
Ce sont des lectures qu'il avait faites bien avant moi.
Mm.
J'y suis arrivé par des biais qui sont consécutifs à l'écoute de sa musique.
Mmh.
Je dirais pas que j'ai suivi quasiment comme une bibliographie qu'il aurait donnée, mais c'est pas loin.
D'accord.
C'est pas loin. Mmh. C'est-à-dire que il y a ce que Spruance a indiqué, et il a indiqué énormément de choses.
Mmh.
Sohrawardi, les Ishrakiyoun, évidemment les écrits traditionnels de Guénon, d'Evola.
Corbin.
Et ensuite, il y a des rencontres, des choses qu'on a découvertes entre amis, et tout ça a été central, et tout ça se fait à cette époque-là, absolument.
Mmh.
Ça se fait à l'époque de Kabbalah, donc bien sûr, absolument. Et Spruance là-dessus est capital, absolument capital.
Bon.
Par rapport, donc toujours, hein, pour en finir avec les livres antérieurs, et oui, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez, je dirais, 12 ou 13 ouvrages, hein, quelque chose comme ça, avant Cinema Hermetica, hein, dans votre bibliographie.
Si on compte... Oui, quelque chose comme ça, ouais. Je ne sais pas le nombre exact, mais ça doit être ça,
voilà,
une dizaine, un peu plus d'une dizaine.
Un peu plus d'une dizaine, ça commence à être un corpus considérable. Alors, il y a un livre que je trouve un petit peu à part, pas tellement d'ailleurs je pense que ses objectifs sont un peu les mêmes que ceux que vous vous êtes fixés pour les livres précédents et même suivants, mais c'est le sujet qui me semblait un peu particulier, c'est Tous les chevaliers sauvages, le livre que vous avez consacré à Harakiri, la première version d'Harakiri, celle du professeur Choron et de Kavanagh au début des années 60. Alors, moi, c'est un livre que j'ai trouvé absolument extraordinaire, notamment parce que, dussé-je en faire souffrir votre modestie, notamment parce qu'il aborde la question de l'humour d'une façon extrêmement sérieuse, si j'ose dire, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que vous prenez l'humour comme un objet tout à fait sérieux. Alors, il y a évidemment l'exemple de Bergson qui a écrit un livre de philosophie sur le rire, mais à part ça, c'est vrai qu'on a peu l'habitude de voir l'humour être saisi comme quelque chose de très sérieux. Alors, non seulement c'est saisi comme quelque chose de sérieux chez vous, mais vous faites même le parallèle avec, on pourrait dire en quelque sorte, hein, pour paraphraser Gombrowicz, je crois, que le rire est la continuation de la guerre par d'autres moyens, en quelque sorte.
Oui, c'est ça, absolument.
Alors, c'est marrant parce que vous arrivez quand même, malgré l'originalité du sujet, quand même à raccrocher les wagons avec vos obsessions. Et notamment, l'obsession apocalyptique, on peut le dire, dans le cadre de Tous les chevaliers sauvages.
Absolument, oui. Mm-hmm. En fait, même on peut dire que c'est peut-être même le premier où la question eschatologique devient aussi centrale également. Mm-hmm. Ça, c'est arrivé. Oui, c'est vrai. Non, mais en parlant avec vous, j'arrive à voir tout ça plus clairement. Mais oui, absolument. Il y a une dimension, apocalyptique dans Tous les chevaliers sauvages qui après va se retrouver dans les livres suivants. Mm-hmm. Absolument.
Alors, par rapport à Cinema Hermetica, pour en arriver au vif du sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bon, déjà, là encore, hein, je vous demande pas de réagir à ce que je vais dire, mais bon, il me semble que Cinema Hermetica est vraiment un des livres les plus originaux et de fait, presque, j'ai envie de dire, les plus importants consacrés au cinéma qui soit sorti en France ces 15 ou 20 dernières années à l'aise. Je ne vois guère que Raymond Bellour avec son livre absolument impressionnant, là, Le corps du cinéma. Bon, vous par d'autres biais, vous avez trouvé une voie unique pour parler de cinéma. Bon, alors ça c'était le préambule. Alors Cinema Hermetica en gros est un livre qui n'est pas une collection, c'était un peu plus le cas de Pop Yoga, hein, même si le livre avait sa cohérence interne, mais là c'est pas vraiment...
Oui, Pop Yoga c'est une anthologie,
oui, voilà.
Il y a sa cohérence, mais parce que, disons, les sujets se répondent, mais c'est une anthologie.
Voilà, oui. Là on n'est pas du tout justement dans le cas d'une anthologie, il y a une succession de textes qui pourraient tout à fait être appréhendés indépendamment, mais il y a un storytelling, si j'ose dire, en quelque sorte, dans votre livre. Hein.
Absolument.
D'accord. Alors, je voulais juste commencer par le commencement, c'est pas très original. Je voudrais qu'on parle de la très très belle introduction du livre. Vous écrivez une introduction qui est, comment dire, certains, je vais être franc avec vous, on m'a dit, mais l'introduction est nébuleuse au regard des analyses qui suivent. Alors, moi je l'ai trouvée à la fois très très belle et très originale. En gros, vous employez la première personne du pluriel et vous parlez d'un mystérieux nous. Qui est ce nous ? Je subodore que c'est un petit peu le spectateur de cinéma, mais pas tous les spectateurs non plus.
Oui, le nous de Cinema Hermetica, en fait, c'est une proposition de lecture qui implique immédiatement une sorte de, comment dire, de communauté avec le lecteur, un peu forcée. C'est-à-dire que, grosso modo, où il a envie d'y aller ou il n'a pas envie d'y aller. S'il n'a pas envie d'y aller, bah, après l'introduction, il a compris qu'il faut voir s'il se retrouve dans ce nous ou pas. Mais c'est un nous très, très précis, oui, assez précisé, puisqu'il s'agit en fait de tous ceux qui ont fait parler les images. Ceux qui ont fait parler les images. Ceux qui ont vu dans les images, qui ont fait parler, qui ont fait vivre les images, un certain type de magicien. Et le spectateur de cinéma, en fait, à ce moment-là, est considéré comme un magicien lui-même parce qu'il arrive à faire parler des images et il arrive à créer en lui-même le mouvement de ces images fixes qui se succèdent et elles deviennent réelles pour lui. Et à ce moment-là, elle commence à lui parler comme les hermétistes faisait parler les statues ou faisait parler les images au IVe siècle à Alexandrie. Et donc, c'est une sorte de continuité, c'est une, comment dire, c'est une proposition de lecture qui serait dans la continuation de la longue histoire errante et nomadique des hermétistes qui disparaissent lors, du christian, lors de la christianisation de l'Égypte, qui se retrouvent mystérieusement lorsque le calife Al-Mamoun, islamisant sa région, arrive à Harran, dans l'actuelle Turquie, et découvre une société de magiciens. Cette société de magiciens qui ne veulent pas lui dire son nom. Ça, cette histoire-là est réelle, hein. C'est pas des choses que j'invente. C'est sourcé, même si on a très peu de sources, puisque sur ces gens qui étaient à Harran, qui ont été donc appelés les Sabéens, qu'on appelle donc aujourd'hui les pseudo-Sabéens de Harran, il n'y a guère que trois livres qui leur ont été consacrés les 15-20 dernières années en anglais. Ouais. Et avant, nous avions des mentions régulières, mais très courtes, dans les ouvrages de Henri Corbin, dans les ouvrages de Massignon, et évidemment, avant tout, dans le fond des historiens arabes du Moyen-Âge.
Comme c'est souvent le cas avec les grands vaincus de l'histoire, en fait. On n'a pas trace.
Tout à fait. C'est exactement ça. C'est une histoire, mais qui est une histoire qui n'appartient pas à l'histoire officielle. Ces sociétés qui, finalement, ont été des sociétés nomadiques, présentent un parcours qui échappe à la lecture habituelle des historiens, elles prennent l'histoire comme en diagonale ou autrement, et donc elles deviennent pertinentes, presque malgré le cours de l'humanité. L'humanité pense qu'elle fait sans elle, mais régulièrement, finalement, elle se retrouve confrontée à ces sociétés comme à leur miroir. Évidemment, j'ai plusieurs fois parlé des gitans ou écrit à partir des histoires des gitans.
On va en reparler d'ailleurs.
C'est une autre histoire, mais une histoire finalement qui est comparable, parce que c'est une histoire d'une société nomade, d'une société qui à plusieurs reprises a été expulsée ou exterminée, et dont on a retrouvé régulièrement des résurgences. Et dont une des résurgences, qui est celle qui fait ce livre, serait celle des spectateurs de cinéma qui allaient dans ces temples qu'étaient les premiers cinémas hollywoodiens et qui, là, ont réussi à rendre miraculeux les apparitions qui s'y trouvaient. C'est-à-dire que de films qui pourraient être simplement même des films de divertissement, ils en ont fait des objets chargés de sens qui les ont orientés. Et ils les ont interrogés, ils les ont fait parler, et ça a donné, le cinéma de Stanley Kubrick ou celui de David Lynch.
Alors, par rapport toujours à cette introduction, ces fameux, magiciens de l'image, on pourrait dire, ou qui passent par l'image, là aussi c'est quelque chose de relativement original, parce qu'en général, il semble que l'histoire de la magie, de l'ésotérisme, soit plutôt liée au langage, précisément. On a plutôt tendance à dire que la magie, c'est la technologie du langage, si j'ose dire.
Oui, tout à fait.
Là, précisément, vous, d'ailleurs, le texte sur Kubrick est très intéressant, parce que, comme le savent peut-être les connaisseurs du cinéma de Kubrick, il y a une très grande... Vous le rappelez vous-même, il y a une très grande méfiance de Kubrick par rapport au langage et une plus grande confiance accordée à l'image. En fait, c'est assez original, c'est la première fois que je vois, en fait, il me semble, même si j'ai une petite culture en la matière, mais c'est la première fois qu'il me semble quelqu'un rattache comme ça la pratique ésotérique, on va dire, à l'image plutôt qu'au langage.
Oui, alors, on la retrouverait dans les ouvrages de l'historienne Frances Yates. J'ai trouvé des traces de ça dans la manière dont Frances Yates ou même Eugenio Garin a approché l'hermétisme en Italie au XVIe siècle. À savoir que finalement la manière choisie principalement par Marcille Fissin pour réveiller la religion hermétique a été la peinture. Et a été l'influence qu'il a eue sur un peintre comme Botticelli, où on pourrait retrouver une trace importante de ça dans le théâtre de Giulio Camillo.
Oui, je voulais justement vous interroger là-dessus. Giulio oui. Camillo, parce que c'est un peu le point d'arrivée, on va dire, de votre introduction, avant d'en arriver aux spectateurs de cinéma contemporain, on va dire. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le théâtre de la mémoire, c'est absolument passionnant comme ça sur le papier, le théâtre de la mémoire de Giulio Camillo, donc.
Oui, alors encore une fois, quelque chose dont on a très peu de traces dans l'histoire, puisque le théâtre lui-même a été perdu. Mmh. En fait, les éléments qui le constituaient. Giulio Camillo, c'est un architecte, artiste de la Renaissance, mais la Renaissance hermétique, donc disciple de Marsile Ficin et de Pic de la Mirandole, quasi contemporain de Giordano Bruno, on va dire, ça va être, je sais pas quoi, la deuxième vague de l'hermétisme en Italie, à partir du moment où Florence n'a pas pu être la base de reviviscence de la religion égyptienne, mais par l'intervention de Savonarole, il a fait fuir Marsile Ficin et mis Pic de la Mirandole au silence et fait brûler ses toiles à Botticelli. Mmh. Et donc ça se déplace, et à un moment, à Venise, on a cet homme, Giulio Camillo, qui décide de construire un théâtre par lequel, en fait, un spectateur unique à chaque fois obtiendrait la connaissance universelle. Mmh. Alors, comment il le ferait? C'est-à-dire qu'il utilise le théâtre en inversant la place du spectateur et la place du théâtre lui-même, c'est-à-dire qu'il prend les gradins pour mettre des images en mouvement et les actionner par un système de poulies et de cordes, et le spectateur unique se place sur la scène, et là, selon des règles qu'il élabore évidemment à travers ses connaissances ésotériques, il veut faire apparaître l'ensemble des images qui synthétiserait la compréhension totale des lois de l'univers. Mmh. C'est, sur le papier, comme on dit, très ambitieux. Il trouve, malgré tout, pendant un bon moment, un mécène dans la personne de François Ier. Mmh. Mais le roi de France ne peut donner que ce qu'il a. Au bout de, je ne sais pas combien, 30 ans, 35 ans, il ne voit rien venir. Le mec est encore en train de bosser dessus. Il en a marre. Il arrête de payer.
D'une certaine manière, on pourrait dire que Giulio Camillo, qui est donc le bâtisseur, l'architecte de ce théâtre de la mémoire, synthétise, du fait donc de son bégaiement que vous évoquez, synthétise cette espèce de lutte entre image et langage, d'une certaine manière.
Oui, on peut dire ça. Et cette idée-là que vous m'amenez me fait penser au fait que Giulio Camillo, qui était donc extrêmement handicapé au niveau de la parole suite à ses longues études et à son long travail sur ce théâtre d'images, était quand même malgré tout considéré en son temps comme un véritable magicien. Un exemple qu'on a, c'est un témoignage extrêmement troublant d'un de ses séjours à Paris, où il venait puisqu'il avait parallèlement au théâtre de mémoire qu'il construisait à Venise, il en faisait un en parallèle pour la cour du roi François Ier. Mmh. Et il faisait des allers-retours, et lors d'un de ses voyages, il s'est retrouvé dans un zoo, ou dans ce qu'à l'époque, en tout cas, on appelait un zoo, entouré d'un certain nombre de personnes de cette cour, un jour où le lion s'est échappé de sa cage. Et à ce moment-là, Giulio Camillo est allé se placer à un endroit précis du zoo, assez mystérieusement, il est allé se mettre à un endroit précis, le lion est allé directement sur lui, et s'est comporté vis-à-vis de lui comme un gros chat. Il s'est mis à câliner, il s'est roulé par terre, et il s'est laissé attraper de façon absolument pacifique, ce qui fait que les personnes autour de lui ont interprété à ce moment-là Giulio Camillo non plus comme un architecte un peu fantaisiste, mais comme un véritable magicien. Et ce que Giulio Camillo a dit à ce moment-là, c'est que le comportement du lion n'était pas tant lié à sa personne qu'au lieu qu'il avait décidé d'occuper à l'intérieur de cet espace. À savoir qu'il savait à un endroit précis, suite à son observation du soleil ou des nuages, quel était l'endroit où le lion serait le plus paisible. Et donc, on a affaire là à un véritable magicien, mais encore une fois un magicien qui n'est pas un sorcier. Et toute la Renaissance aussi illustre un grand conflit qui va avoir lieu sur l'interprétation de la magie, à savoir comment est-ce qu'il faut comprendre les magiciens. Est-ce qu'il faut les comprendre comme des sages, ou comme des personnes qui sont habitées par la connaissance et par la compréhension des mécanismes de l'univers, ou comme des sorciers, c'est-à-dire des gens qui veulent agir sur le réel et agir de façon égoïste ou de façon personnelle. Mmh. Et c'est en général la façon dont on s'est débarrassé des grands magiciens de la Renaissance, cette critique venant à la fois évidemment du monde chrétien et du monde pré-scientifique ou humaniste qui s'établissait à la Renaissance et qui a gagné contre la Renaissance hermétique. Mmh. La Renaissance humaniste a gagné.
Tout à l'heure, vous disiez un mot du rôle de Shakespeare dans ce. Tout à l'heure, hors antenne, vous disiez du rôle de Shakespeare dans la réhabilitation, on va dire, de la magie sans sorcellerie, c'est ça?
Absolument. Mmh. Shakespeare, à son époque, a quelque chose d'extrêmement singulier. C'est que dans ses pièces, la magie a droit à ses lettres de noblesse, soit évidemment Songe d'une d'été, ou surtout évidemment La Tempête, où le personnage de Prospero, qui a été exilé de son royaume parce qu'il était magicien, en fait par la magie, réussit à pacifier les relations entre lui et le reste des gens qui sont échoués sur cette île. Mmh. Et en fait, il s'agit pour Shakespeare d'essayer de sensibiliser le public de son époque, qui a été fortement échaudé par la magie à la suite de la prise du pouvoir du roi Jacques, qui lui a été un très fort contempteur de la magie et de l'ésotérisme, et qui était à ce niveau relayé par les autres dramaturges élisabéthains. Mmh. Dans les pièces élisabéthaines, à part celle de Shakespeare, la magie, c'est toujours la sorcellerie et c'est toujours des méchants. Et Shakespeare... Voilà.
Sauf Harry Potter maintenant, mais bon.
Voilà, exactement. C'est, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on est en fait en face d'une œuvre populaire, véritablement populaire, enfin ce que je crois être les chefs-d'œuvre de la culture populaire, à ce moment-là, elles ont une relation avec la magie qui est une relation profonde et sincère et juste. Et elles se séparent à la fois de la tentation du pouvoir associée à la magie, puisque c'est toujours le problème de la magie, c'est la tentation du pouvoir, c'est la tentation d'agir négativement sur les choses, d'agir égoïstement sur les choses, et aussi de la tentation rationaliste ou contemptrice.
Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'allais dire, passer l'introduction, vous passez en revue une douzaine de films, en fait. Hein.
Oui.
On va pas tous les aborder, bien sûr, un par un, mais je vais en choisir quelques-uns de manière à essayer de récapituler un peu les différents fils qui traversent le livre. Oui. D'ailleurs, même avant même de parler de Nosferatu, de Murnau, qui est le premier film que vous abordez, avec le remake, d'ailleurs, signé par Werner Herzog à la fin des années 70. Juste un mot sur deux, trois grands thèmes qui traversent comme ça le roman. Alors, votre essai. Alors, par exemple, ça aussi, ça surprend les lecteurs qui sont pas habitués à vos écrits. Vous parlez très fréquemment pendant tout le livre, et vous l'avez fait tout à l'heure au début de l'entretien, de Buffy. Vampire Slayer, qui est la création de Joss Whedon, donc une série télévisée de la fin des années 90, qui a connu 6 saisons, si je ne m'abuse.
Ouais.
Et en fait, Buffy, quelque part, pour vous, elle revient dans un texte sur deux, au moins, je dirais.
Oui, hein. Au moins, oui.
Et alors, pourquoi cette importance cruciale, indépendamment des qualités narratives, esthétiques de la série, c'est quoi Buffy pour vous? C'est la guerrière gnostique, comme vous le dites à un moment donné?
Oui. Pour moi, Buffy, en fait, il y a quelque chose aussi d'une justicière dans l'histoire des images. Mmh. Ça, c'est évidemment à penser a posteriori. Buffy est arrivée très spontanément dans mes analyses parce qu'en fait, il se trouvait qu'elle croisait à chaque fois les thèmes que j'abordais.
Ouais.
De façon, Nosferatu pour la question des vampires, évidemment.
C'est évident.
Donc, les vampires comme image de l'oppresseur ou image du dominant, mais aussi Suspiria, l'école de sorcières, les questions liées à l'amour et à la solitude, évidemment Céline et Julie dans leur rôle de magicienne désenvoûtrice, Gina Rowlands dans Opening Night, Shining évidemment, très 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 souvent en fait les fictions que j'abordais dans le cinéma, d'une certaine façon, Buffy les avait aussi passées à son tamis particulier, à son exégèse particulière. Mmh. Et donc, le regard que pouvait permettre Buffy, c'était aussi le regard que pouvait permettre l'après-cinéma sur le cinéma. C'était comme une, Buffy aurait pour moi, je sais pas quoi, le rôle de, des livres de Deleuze pour un autre critique de cinéma.
C'est un parallèle osé, mais je vois.
Voilà, vous comprenez. C'est-à-dire, en général, dans un livre de cinéma, il y a toujours un moment où Deleuze intervient.
Il intervient aussi dans le vôtre à un moment donné, d'ailleurs. Et il y a une occurrence.
Absolument.
Il y a une occurrence.
Je ne rejette absolument pas cette référence. Mm. Mais comment dire, c'est comme, mettons que Buffy m'a aidé à réfléchir sur les films.
Mm.
Donc, parce que justement, c'est pas du cinéma, c'est autre chose, la série télévisée. Et comme c'est autre chose, mais que ça utilise un médium qui semble s'y apparenter, en permanence, on aurait le miroir de ce qu'est le cinéma dans quelque chose qui ne l'est pas.
Mmh.
Et donc, tout un tas de thèmes ou d'images ou de formes qui traversent le cinéma fantastique, une fois passé par Buffy, on va dire, ça raconte autre chose.
Mmh.
Et cette autre chose peut aider à continuer l'histoire ou à poser un regard, rafraîchir le regard.
Mmh.
Et Buffy aurait ce rôle-là dans ce livre, oui, absolument.
D'accord.
Mais très souvent dans mes livres, j'aime bien avoir un compagnon ou une compagne pour faire le boulot.
un sidekick, comme on dit, c'est ça,
hein?
Un sidekick, comme on dit, un voilà, acolyte, quoi. Mais, ouais.
Voilà, ou quelqu'un qui... Ou peut-être un Giles, que ce que Giles est à Buffy, Buffy l'est pour moi.
D'accord.
Dans ce livre.
D'accord.
Un watcher.
D'accord.
Quelqu'un vers qui je me tourne pour voir si je ne suis pas en train de me gourer complètement sur le sens de ce qui est en train d'avoir lieu.
D'accord. Votre Virgile, en quelque sorte.
Mon Virgile, voilà, exactement. Oui, oui, quelqu'un qui m'aide à traverser ça.
Mm.
Et c'est presque un souhait qu'on fait pendant qu'on commence à écrire. On se dit... on charge de puissance une source ou une référence. Et d'une certaine façon, c'était dans le livre sur Harakiri, c'est quelque chose que j'ai délégué à Ghost Dog.
D'accord.
Et vous voyez ?
Ouais.
Un peu à Ghost Dog, ou en tout cas à la figure du samouraï.
Ouais, qui fait référence à l'Agakure, comme vous le faites, vous, dans le livre.
Exactement.
D'accord.
Ghost Dog était un peu mon Virgile pour parler d'Arakiri. Il faut que ça soit, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse écho, la guerre et le rire ou d'autres choses. Et il faut aussi quelque chose qui soit différent, qui permet de, c'est des choses qui ont lieu comme ça. Quand j'avais écrit l'histoire Matt Conture, j'avais demandé ça à Tolstoï.
Hmm.
Bon, vous voyez, c'est pas forcément même...
Oui, oui, c'est pas forcément évident comme rapport. Quoi,
non, à un moment, on le sent. À un moment, on se dit, vous allez m'aider, si vous êtes d'accord.
Alors, petit aparté supplémentaire juste sur Buffy, une question par pure curiosité personnelle.
Oui.
Vous n'êtes pas trop dégoûté de l'évolution de la carrière de Joss Whedon après sa carrière télévisuelle ?
Oh, bah, si, oui.
Ah, d'accord.
Mais bon. j'espère qu'il va se reprendre. Hein.
Ouais,
j'espère
serait temps là.
Qu'il a assez avalé de couleuvres comme ça. Hein,
ouais, ouais.
Parce que elle était annoncée dans Angel. Hein, C'est-à-dire que la dernière
saison. Il est tombé
d'Angel,
entre les mains des avocats véreux qui combattent Angel dans la dernière saison, c'est ça?
Exactement. En fait, Joss Whedon a plus ou moins mis en scène sa propre possibilité d'enténébrement. À partir du moment où il va utiliser la forme qui marche jamais, qui est un peu l'idée du trotskisme, qui est
l'antrisme,
changer les choses intérieures.
Ouais, ouais. D'accord. Alors, un autre fil à côté de Buffy qui traverse le livre, mais qui traverse en fait certains de vos livres antérieurs, ça fait bien 2-3 livres, peut-être même plus, que vous revenez sur la question, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, c'est la question du nomadisme et la question des gitans,
oui.
qui est évoquée à travers Nosferatu, mais c'est un peu à part du cœur du texte, hein, c'est notamment,
oui,
vous faites un sort
sort de l'image un peu déplorable qui est donnée par Bram Stoker dans le roman Dracula, donc des gitans qui sont en fait des vulgaires complices du mal du comte Dracula en personne. Oui. Mais c'est surtout à travers Freaks, hein, donc le film de Todd Browning là, que vous rentrez vraiment dans le vif du sujet et que vous faites des freak shows à l'américaine qui ont été un petit peu donc entre 1830 et 1930, hein, vous datez ça à peu près à cette période-là, qui sont en fait les derniers restes quelque part d'un nomadisme qui aujourd'hui a été presque entièrement éliminé en quelque sorte.
Oui. En tout cas, qu'il y a vraiment plus d'espace d'expression. Mm. C'est un lieu. Et c'est toute l'histoire de l'humanité quasiment, hein, qui est celle de l'histoire de l'humanité. C'est presque l'histoire de comment on va empêcher les gens de bouger. Mm.
La sédentarisation forcée, en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. Mm. C'est ça. Mais ça, je l'ai pas inventé. Hein. Ça, chez Guénon, il y a des pages extraordinaires là-dessus. Mm. Qui d'ailleurs. Ça me renverse toujours de voir à la fois Guénon dénoncé comme un écrivain dit d'extrême droite, ou des fois même récupéré par ce type de courant, alors qu'on a chez lui probablement un des hommes les plus attachés à la cause du nomadisme, mais presque par principe.
Ouais.
Alors, je ne sais pas après ce qu'on considère comme étant des marqueurs à un niveau politique, mais pour moi, celui-là, c'est un véritable marqueur. Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les territoires doivent être des chasses gardées, ou est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où on met des portes, où on met des frontières, où on enclôt des espaces, on empêche la connaissance de circuler. Mmh. Et c'est là où on va trouver même... je suis désolé, j'ai une manière de penser qui est un peu coq-à-l'âne, mais ça me fait immédiatement penser à aussi une autre série qui est celle de Chris Carter, qui était le Millennium de Chris Carter, où jouait Lance Erickson, où il y avait un épisode terminé par l'image de son personnage, Lance Erickson, qui casse la serrure de sa porte et qui la jette d'un geste violent parce que tout l'épisode était un épisode allégorique qui montrait que plus on fermait les espaces, plus cela était possiblement habité par le mal. Et donc c'est aussi une espèce de geste qui va dans la continuité de tous les gestes de Chris Carter, qui est vraiment, je sais pas si on peut dire, une figure de l'anarchisme de gauche américain, mais pour moi en tout cas
d'accord,
c'est clair qu'il s'inscrit dans cette direction, dans une forme beaucoup plus spirituelle encore dans Millennium, mais qui est voir en fait l'histoire de l'humanité comme Guénon, comme celle de la désautorisation forcée des hommes, et surtout leur éloignement progressif de la connaissance par leur éloignement des moyens d'accéder à la connaissance, étant donné qu'on considère que cette connaissance-là ne peut circuler qu'à travers les peuples en tribulation. Là, aujourd'hui, on a un exemple patent. Il est arrivé beaucoup trop tard pour que mon livre puisse y faire écho, qui est la question des migrants.
Bien sûr.
Mais il est très clair que là de nouveau, ce type de questions se repose. Pas tant pour ce que sont les hommes qui se trouvent à un moment ou à un autre en tribulation forcée, que en fait ce que produit la confrontation des nomades et des sédentaires, et qui à ce moment-là prend différentes formes. Mais on voit dans l'histoire des gitans à quel point en fait les moments où les peuples sédentaires ont été à l'écoute de ce que ces peuples nomades étaient capables de leur apporter de meilleur, ce qui pouvait naître à ce moment-là et à ce moment-là en termes de connaissances. Mmh. Un des moments les moins violents, c'était le 19e siècle. Mmh. On le voit à la façon dont Victor Hugo même représente les gitans, mais on retrouve les gitans dans presque toute la poésie du 19e siècle. Mmh. Nerval, Baudelaire, etc. etc. Mmh. Et en fait, c'est à ce moment-là, la poésie française s'est connectée, quasiment s'est branchée sur un savoir ancestral. Mmh. Et c'est c'est des questions qui sont des questions bon, j'aborde de façon qui sont certainement pas assez rigoureuses par rapport à leur importance, mm-hmm. Mais qui me semble revenir de façon fréquente et les cirques errants. Bon, ça, je tiens ça beaucoup de la d'une interprétation de la série Carnival.
Oui.
Et Carnival fait ce boulot-là. Hein. Mm. Moi, je fais que le. En fait, je, Carnival là est bon. Et mon Giles, mon Virgile, pour relire cette question des, mm. des cirques errants et la place du film Freaks. Mm. Mais
d'ailleurs, oui, une large part du texte, pardon, hein, oui. Consacré à Freaks, justement, parle de la série Carnivalet. Donc, hein, toute la fin du texte est consacrée à Carnivalet, la caravane oui. de l'étrange pour les oui. spectateurs français.
et dans cette série, on a le petit cirque errant, le freak show comme couverture. Pour véritablement le gardien de la lumière, quoi, ouais. l'avatar de la lumière, mm. ou le gardien de la connaissance non humaine. Mm.
Et d'ailleurs, à un moment où les Américains sont eux-mêmes jetés de force sur la route et deviennent presque des nomades à l'intérieur de leur propre pays, d'une certaine
exactement.
Manière.
Exactement, mm. exactement, mm. exactement, exactement. Mm. Au moment de la Grande Dépression, on a des épisodes qui font référence à des événements historiques qui se passent à ce moment-là, la tempête de sable,
ouais, le Dust Bowl. Mm-hmm.
Voilà exactement. Et cette série est construite de façon extrêmement troublante parce qu'elle commence par passer par des villes qui existent, dont on tire parti d'ailleurs de leur dimension symbolique, mm-hmm. mais de ce que leur nom même évoque dans l'histoire biblique ou dans l'histoire mythologique, mm-hmm. et progressivement nous amène dans des terrains qui sont des terrains, on ne sait plus où on est, c'est-à-dire qu'on se perd même dans, en fait, c'est une Amérique qui est comme un peu comme, mettons, dans les textes, des textes persans, l'île qui est à moitié dans ce monde et à moitié déjà plus dans l'autre monde, quoi, ouais. la montagne de coiffe qui sépare ce monde du monde imaginal ou du monde des formes en suspens. Et là, on est dans une Amérique qui a elle-même une partie qui vit dans l'imaginaire alors qu'une partie a une existence historique. Mmh. C'est extrêmement troublant. Mmh. Et ce que ça dit en rétrospectivement sur les freak shows, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle voit dans les freak shows, et là-dessus, je pense que c'est une proposition visionnaire de Carnivalet, de la série de Daniel Knopf, de voir dans les freak shows une continuation, en tout cas, de l'histoire de ces peuples en tribulation, porteurs de la connaissance non humaine. Mmh. Et voir le film Freaks de Todd Browning, qui en plus a cette singularité incroyable de se placer à un moment historique où les... Un moment
absolument.
Hystérique, quel lapsus je fais, c'est moi qui suis dans un moment hystérique. Et ce moment historique où les freaks sont amenés à disparaître, mm. c'est-à-dire où, en fait, se met en place une politique eugéniste mm. qui ne s'avoue pas comme telle ou ne se dit pas comme telle.
Ouais.
Et qui a pris, oui. dire, qui a gagné. Mmh.
C'est même le grand moment de l'eugénisme, non ? La fin des années 20 et le début des années 30. On le sait peu, mais Churchill, mmh. qui a combattu Hitler, était un fervent défenseur des pratiques eugénistes, par exemple.
Ouais.
Hein
mmh. ouais. Mmh. Je ne le savais pas non plus, mais hélas, ça ne m'étonne pas.
vous avez beaucoup de méfiance envers les grands hommes en général, non ? Je vous ai entendu le dire dans ces termes-là. Donc Churchill, bon, c'est pas trop ça.
Voilà, oui, non, mais voilà.
Alors, pardon.
Quand on me dit d'un grand homme de l'histoire qu'il y a un truc qui va pas trop bien, a priori, je me dis, ouais, c'est ma ligne.
Hero.
Alors, un autre très grand thème, avant d'aborder le cas de quelques-uns des films que vous évoquez, c'est celui, il est moins présent que les deux premiers, hein, c'est celui du New Age.
Oui.
Le New Age, pour vous, alors, c'est la première fois que je le vois formulé personnellement en des termes aussi clairs. En gros, pour vous, c'est l'accompagnement spirituel de la grande ère capitaliste qu'on est en train de traverser, en gros. C'est le compagnon spirituel parfait du capitalisme, dans le sens où c'est la spiritualité performative, on pourrait dire, l'expansion de soi, une espèce de, voilà, de libéralisme du moi, quoi, en quelque sorte, on pourrait dire, non ? Enfin, je le résume très mal, mais...
Non, vous le résumez bien, et comme à chaque fois, vous amenez une idée ou une synthèse que je n'étais même pas capable de formuler aussi bien. Absolument, non, c'est vrai que je n'avais pas encore abordé le New Age précédemment, mais les films ne m'y avaient pas amené, ou les études ne m'y avaient pas encore amené précisément, même si en lecteur de Guénon et de Kumaraswamy, j'avais été un peu prévenu.
Ouais. Oui, parce que Guénon annonce le New Age d'une certaine façon.
Voilà, exactement. Mm. Exactement, ils sont bien avant. Le New Age est quelque chose qui arrive dans le courant des années 80, si je ne dis pas de bêtises, en tant que tel.
Fin des années 70 ou début des années 80, ouais, je pense qu'on peut dire ça.
Voilà, c'est ça. À part le livre Les Enfants du Verseau, The Aquarius Conspiracy, de Marilyn Ferguson, qui est à ce moment-là le livre, le livre manifeste du New Age, où... et c'est pas étonnant, en fait on retrouve toutes les idées des théosophes absolument clairement inscrites, et de toute façon une claire accointance avec un capitalisme un capitalisme qui a assumé jusque dans ses dernières conséquences le fait que tout le monde s'en sortirait pas. Et tout ça avec la plus grande, avec la plus grande...
bienveillance, d'une certaine manière.
Exactement. Donc c'est quelque chose de particulièrement répugnant de voir à ce moment-là une caricature de toutes les idées des traditions orientales déformées, renversées en leur contraire, pour donner un exemple, évidemment... la question de la métempsychose qui est une question déjà en soi très très délicate, très complexe, mais enfin de toute façon toutes les traditions orientales sont d'accord sur l'idée qu'il faut que l'enjeu c'est la délivrance des passions et la délivrance de l'ego, le dépassement de l'ego, le passage du moi au soi et la délivrance des passions.
Donc le premier film que vous abordez dans le livre, c'est un film que vous mettez très très haut en fait dans la hiérarchie du cinéma, parce qu'à un moment donné, c'est Nosferatu, signé par Murnau en 1922 si je ne m'abuse, en fait vous dites que c'est la véritable, bon le cinéma a déjà 25 ou 30 ans d'existence derrière lui à ce moment-là, et pourtant vous dites Nosferatu c'est la naissance métaphysique du cinéma. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors ce que j'entends par là, en fait, je corrige en fait la phrase d'Alvin Gros, qui était donc le directeur artistique du film et l'initiateur de ce film de Murnau. Le film se jouant sur plusieurs volontés conjointes, mais enfin la rencontre entre Alvin Gros et Murnau est très importante pour l'existence de ce film. Et Alvin Gros, qui a été non seulement le directeur artistique du film, mais aussi son publicitaire, annonçait en fanfare le film comme le premier film véritablement occulte, ou véritablement occultiste.
Ouais.
Et en vérité, ce qui se joue est très particulier, c'est-à-dire que qui pourrait être la fonction du cinéma, en tout cas la fonction du cinéma que j'explore dans ce livre et qui m'intéresse, qui est à savoir de raconter ce qu'est cette époque, qui est presque la deuxième grande période. En fait, le cinéma recouvre toute la deuxième grande période de la modernité, si on considère la modernité comme ayant deux mouvements successifs, un mouvement qui est un mouvement de matérialisation, qui passe par les humanismes, les rationalismes, le matérialisme, et un mouvement ensuite de pulvérisation, qui passe par les occultismes, le New Age en faisant partie, et aussi par ces formes invraisemblables apportées par les technologies modernes, qui sont ces images en mouvement ou qui sont l'entrée dans, véritablement dans le monde de l'image. Et à partir de ce moment-là, le cinéma trouve une fonction à travers Nosferatu qui est de montrer le négatif de cette période.
Littéralement le négatif.
Littéralement le négatif. C'est-à-dire que c'est le passage du pont. Le passage du pont a obsédé tout le monde.
Oui, notamment les surréalistes, oui.
Ouais, voilà, je dis tout le monde. Non, les surréalistes, vous avez raison. Non, mais le moment, le passage du pont, et lorsqu'il franchit le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre, ou alors après, il y a eu plein de traductions complexes. J'essaie de débroussailler un peu cette affaire-là, et avec bien grand mal. Car
c'est pas clair, clair, ouais.
Mais avec un peu d'aide de mes amis. Ce fameux passage du pont, qui est aussi un passage où on a un aller-retour du positif et du négatif.
Absolument.
Et l'aller-retour du positif et du négatif raconte quelque chose sur l'opération même que le cinéma va pouvoir jouer. C'est comme si on avait... il faudrait dire ça comme ça. Apparaît quelque chose d'absolument nouveau qui va être les pratiques audiovisuelles. Au sein de ces pratiques audiovisuelles, il va y avoir qui vont être de multiples formes. Il va y avoir son fonctionnement général qui serait un fonctionnement proche de celui de la magie noire. Et ensuite, ce que vont réussir à en faire des poètes. Les poètes étant toujours ceux qui prennent finalement un poison et le transforment en remède. Et donc, on peut dire, Artaud disait, toute la littérature est de la cochonnerie. Et je pourrais dire pareil, tout le cinéma, c'est de la cochonnerie. Sauf ce qu'en font les poètes.
Voilà qui est merveilleusement résumé. Alors, ce qui est important aussi dans Nosferatu, même si c'est évidemment pas le film qui invente la figure du vampire, hein, on peut penser au film de Louis Feuillade avant, et puis bien sûr, il y a la littérature, ça remonte à peu près au début du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça représente quand même la naissance d'un nouvel archétype, en quelque sorte. C'est celui du... Comme vous le dites dans le livre, vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup Voltaire, hein, pas plus que Churchill. Mais vous dites qu'il avait eu quand même le nez creux en faisant le lien entre les vampires et les authentiques vampires ou rapaces que peuvent être les usuriers ou autres.
Les
financiers.
Les agioteurs, il dit, je crois.
Ouais, c'est ça, exactement. et en fait, peut-être que l'invention de Murnau, c'est de montrer, vous le dites hein, vous-même dans le texte, bien sûr, hein, de montrer le vampire sous les traits de Max Schreck sous son véritable jour, c'est-à-dire pas du tout séduisant en fin de compte.
Oui, tout à fait, voilà, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on se... ce qui est singulier à la figure du vampire, c'est que c'est un oppresseur dont on veut toujours être aimé. C'est ça, l'histoire du vampire. Ouais. C'est qu'on a vu, à travers toutes ces figures de vampires, des figures de dominants, d'oppresseurs, de le terme que aime bien la magazine féminin aujourd'hui, pervers narcissique. Enfin, bon, tout ça, quoi, c'est des figures qui ont toutes des traits comparables à celles du vampire, mais le rapport au vampire, et là-dessus, il faudrait vraiment interroger faudrait interroger les gens qui ont créé des figures de vampires. Pourquoi ils ont créé souvent si séduisantes.
Ouais.
C'est d'être présenté sous un jour où on préfère encore mourir avec lui que de vivre sans.
Ouais.
Et Murnau fait pas ça. Murnau fait pas ça. Il le montre vraiment comme un non-né, quoi, comme un avorton, comme un embryon. Comme un être vieilli trop vite, comme un bébé vieilli trop vite. Enfin, on peut voir plein de façons différentes le personnage de Max Schreck. Mais en tout cas, on peut pas dire il est sexy, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Et on peut en dire autant d'ailleurs de la déclinaison incarnée par Klaus Kinski dans le remake de Werner Herzog qui reprend la même apparence.
Absolument, il a repris le même, absolument. Il a repris il a repris le compte. Mmh. Et par rapport à ça, c'est très intéressant de voir combien cette figure-là est peu populaire, en fait. Plus populaire, enfin, est peu populaire. C'est pas vrai, on s'en souvient très très bien, mais combien elle a à faire face à elle à un grand 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 nombre de vampires
sexy,
de vampires plus mignons les uns que les autres, mais qui en fait ressemblent toujours un peu à ces héros de romans d'amour féminin.
Oui, absolument,
avec les patrons, ouais. Vous voyez, irrésistible patron,
c'est le patron un peu sexy, quoi, c'est ça.
C'est ça. Et il y en avait tellement des livres là comme ça, vous voyez, il y en a plein de livres et qui sont, comment dire, comme le, c'est aussi pareil, c'est-à-dire que c'est pas suffisant d'avoir une situation qui est insupportable, il faut en plus créer par-dessus ça des fictions qui en font l'éloge,
ouais.
Et qui nous enferment dans une relation, délétère, sentimentale délétère vis-à-vis de ça.
Quelle est votre relation à vous, du coup, à des œuvres de fiction ? Je sais pas, par exemple, je pense à l'adaptation par Coppola du roman de Stoker.
Oui.
Quelle est votre relation à des films qui présentent justement cette figure du vampire un peu séduisant, un peu attractif, et on mourrait pour lui, etc.
Je suis beaucoup plus méfiant, évidemment, d'accord. Vous pouvez imaginer.
Mais justement, il me semblait que vous détestiez pas le film de Coppola, pour reprendre cet exemple.
Je le déteste pas, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans. Et évidemment, je déteste pas le Dracula de Todd Browning, même
bien
si
sûr.
On peut pas dire que ce soit son chef-d'œuvre.
Non, c'est clair.
Presque toujours, hein, même dans une fiction qui prend qui prend la tangente par rapport à une idée qui me semble je sais pas quoi. Si mettons, je pense que l'idée juste est celle de Murnau.
Ouais.
Une fiction qui va prendre la tangente par rapport à ça,
oui.
Va quand même m'intéresser parce qu'elle croisera d'autres questions.
Mmh.
Et à un moment ou à un autre, elle les croisera juste ou elle la croisera pas juste. Mais en tout cas, elle donnera à penser.
Mmh. Mmh.
Elle donnera à penser et pour ça, je la reconnais. Maintenant, je suis pas un fanatique du Dracula de Coppola,
ouais.
mais je ne suis absolument pas. Enfin, comment dire, je vais pas. Je vais pas me plaindre qu'il existe. Je vais pas cacher mon plaisir à le voir. Voilà.
Alors,
et trouver des choses, ouais.
Je voulais évoquer maintenant, donc un peu plus loin dans le livre, vous abordez, il y a un seul cinéaste qui revient deux fois dans le sommaire,
oui,
je pense que c'est un cinéaste qui est très important pour vous, même si vous n'êtes pas tendre d'ailleurs avec sa carrière post-77-78, hein. C'est Roman Polanski,
hein,
dont vous dites en fait que tout l'intérêt c'est la première partie de sa carrière, c'est difficile de vous donner tort d'ailleurs dans l'absolu, même s'il y a peut-être quelques... Vous n'aimez pas La Neuvième Porte par exemple ?
Pas tellement, non.
D'accord. Je pensais que ça pouvait vous intéresser à cause du récit un peu initiatique ou contre-initiatique, précisément.
Oui, ça m'intéresse. Mmh. Ça m'intéresse.
Ça ne veut pas dire que le film est réussi.
Hein ?
Mais ça ne veut pas dire que le film est réussi.
Voilà, enfin, disons que c'est pas à moi de dire ce qu'on pensait du film, quoi. Mais...
C'est vous qui dites ça.
Hein ?
C'est vous qui dites ça.
Oui.
Bon, toujours est-il. Oui, pardon.
La neuvième porte. Alors peut-être que c'est aussi c'est le problème, c'est que je suis peut-être pas le bon spectateur pour La Neuvième Porte. Et c'est moi qui dis ça. Oui, c'est un peu ésotérique. Non mais il a pas réussi à me faire trembler.
D'accord.
Alors après. Comme je suis pas vraiment critique de cinéma, je ne veux surtout pas être prescripteur ou contre-prescripteur.
Bien sûr.
Quelqu'un d'autre sera peut-être capable de voir ce qu'il y a de génial dans La Neuvième Porte. Mais pas moi.
D'accord.
Donc du coup, des fois, je suis pas tendre avec certains films, c'est vrai, de Polanski, et je le déplore.
Alors par contre, vous êtes un grand admirateur de ces films antérieurs, et notamment de deux films que vous faites figurer au menu de votre livre. Il y aura Chinatown, dont on va dire un mot tout à l'heure, mais d'abord Le Locataire. Alors moi, c'est un des textes que j'ai préféré dans le livre. Notamment, je trouve qu'il a, vous arrivez dans ce texte-là en particulier, très précisément à faire coexister deux tendances de vos écrits sur le cinéma. C'est que, d'un, vous abordez des choses qui paraissent infiniment éloigné du sujet d'origine. Alors, quand même, dans Le Locataire, je le dis pour le lecteur, sans en dire plus, que ça lui donne un peu l'eau à la bouche, vous finissez par dire que le grand secret du locataire, ce sont les origines égyptiennes de Paris. Ce qui désarçonne un peu quand on connaît pas bien l'histoire de la capitale. Donc ça, ça paraît très, très éloigné. Alors, de manière très brillante, vous arrivez quand même à faire le... Enfin, c'est très cohérent, évidemment, hein, dans le cours du texte. Mais aussi, dans le même temps, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est la coexistence de ces deux tendances dans vos textes. C'est aussi un film, le texte que vous écrivez sur le film aborde très précisément le premier degré du film. Je veux dire, Le Locataire, c'est avant tout un film sur des problèmes de voisinage et de loyer, quoi, en fait de compte.
Si je peux me permettre. Merci, non, mais vous avez, oui, c'est tout à fait juste, c'était mon enjeu. En fait, à vrai dire, c'est le premier texte que j'ai écrit pour le livre.
D'accord.
Et une fois que j'ai terminé, je suis retourné en arrière et j'ai écrit Nosferatu et le Freaks pour pouvoir parce que pour moi ça pouvait pas vraiment commencer par Le Locataire. Il fallait une mise en place, on va dire, de des choses beaucoup plus générales sur le cinéma et il me semblait que Nosferatu pouvait les toucher, des choses plus générales sur aussi la question nomadique et ouais. Freaks pouvait les toucher. Mais le texte sur Le Locataire m'a ouvert au livre. Et je savais pas du tout, quand j'ai commencé à écrire sur Le Locataire, ce que j'allais trouver. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé à revoir le film, à revoir les films de Polanski, à relire le livre de Topor,
oui.
À faire des recherches et tout ça. Et puis d'un coup, c'est un peu comme le personnage de Trelkovski, hein. D'un coup, je me suis rendu compte que mes chiottes avaient des hiéroglyphes. Mais c'est vraiment ça. Il y avait une pièce que j'avais pas vue, quoi.
D'accord.
Et donc, vous imaginez ma surprise en travaillant. En fait, la question de Paris Ville d'Isis, mais je n'en savais rien avant d'arriver sur Le Locataire. Je n'en savais strictement rien. Je me suis dit, mais pourquoi les hiéroglyphes pour dire aux auditeurs, il y a une scène du film où Trelkovski, le personnage principal. Voyant toujours des gens se poster face à sa fenêtre dans les toilettes et le regarder, et ayant l'impression que qu'ils étaient comme des images fixes, enfin très inquiet par ce truc-là, par lui-même aux toilettes. Et une fois arrivé aux toilettes, il se rend compte qu'en lieu et place de graffiti, on a toute une fresque hiéroglyphique gravée à même les chiottes de son étage.
Absolument.
Et ce thème-là, en fait, traverse tout le film. Mais par la bande, jamais en directement, puisque c'est un thème qui n'est pas du tout dans le livre de Topor.
D'accord, ça c'est pas du tout dans le livre de Topor.
Absolument pas.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucune allusion à l'Égypte dans le roman de Topor.
Mais est-ce que la momie que constitue l'héroïne absente Simone Schull, est-ce que la momie est dans le livre de Roland Topor? Je ne l'ai pas lu personnellement, donc je ne peux
pas... Le personnage est présenté comme une véritable momie.
D'accord.
Oui, et à mon avis, c'est ce détail-là qui a amené
Polanski,
soit Gérard Braque,
oui, le scénariste.
Plusieurs personnes m'ont dit que ça vient de Braque.
D'accord.
Soit à Polanski. Braque, c'est donc le co-scénariste du film.
Ouais.
Le fil égyptologique. Mais dans le roman de Topor, Simone Schull travaille sur l'histoire de France.
D'accord.
C'est une historienne spécialiste de l'histoire de France. Et en fait, le roman de Topor, on va dire, explore complètement la dimension politique. Complètement. À savoir l'obsession de l'assimilation.
Ouais.
C'est un roman sur l'assimilation.
Et le zèle des nouveaux venus, quoi, en quelque sorte.
Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est le roman que, visiblement, n'ont jamais lu tous les néoconservateurs à la française. roman que n'ont pas lu Finkielkraut, Zemmour, etc. On leur recommande vraiment...
C'est clair, faudrait qu'ils
très sincèrement. C'est-à-dire que quand ils font l'éloge de l'assimilation... critique l'espèce de laxisme par rapport aux identités qui sont un modèle anglo-saxon, blabla, etc. Faut qu'ils lisent Locataire, qui en explore Locataire chimérique, le roman de Topor,
c'est le titre exact.
Qui en explore véritablement bien avant leur triste palabre les conséquences pratiques, à savoir que c'est un roman qui est rempli de personnages dont pas un seul n'a de nom qui est une sonorité, on va dire, française. C'est très clairement des étrangers francisés.
Absolument.
Qui reprochent aux nouveaux venus de ne pas être assez français. Et le logeur s'appelle Zvi, son ancienne donc l'ancienne locataire s'appelait Simone Schull. On a des noms qui sonnent espagnols, des noms qui sonnent polonais, des noms qui sonnent italiens, des noms qui sonnent anglais, des noms qui sonnent américains. Tout ça, je sais même pas si Topor le fait volontairement ou si c'est pas un gag, c'est drôle. Qu'ils aient tous des noms à consonance étrangère alors qu'ils sont tous des bons français. Ouais. Je sais pas s'il y avait une intention derrière ça. Ouais. C'est peut-être qu'il n'y en avait aucune. Mais en tout cas, le fait est là. Trelkovski, sa seule particularité, c'est que son nom n'a pas été francisé à l'écrit. Il est écrit Trelkovski, il est infrancisable. Ouais. Tandis que Schull, c'est écrit C-H-O-U-L-E.
Oui, c'est francisé pour le coup, oui, absolument.
Voilà, alors que Schull, Schull, c'est normalement, c'est comme Jean-Jacques Schull, quoi.
Ouais, absolument.
C'est, sur ces histoires-là, c'est passionnant et tout ça, c'est dans Topor. Et Topor, pour jouer ça, ou peut-être aussi intuitivement, a mis l'idée que Simone Schull est obsédée par l'histoire de France et donc du coup il trouve chez elle des histoires liées à Louis XIV, machin, les rois, différentes époques de l'histoire de France, et quand il a une fantasmagorie comme on en a dans le film, fantasmagorie finale, le moment carnavalesco grotesque terrible avec la tête qui tombe et tout ça, où il est même mis en arlequin ou en guignol, d'arlequin, tout ça à ce moment-là c'est rempli d'images de l'histoire de France. Le film déplace tout et installe des images liées à l'Égypte, probablement à partir de l'histoire de la momie, mais c'est déroulé très discrètement, mais c'est déroulé, c'est-à-dire qu'on a ici une petite statuette égyptienne, là le roman de Théophile Gautier,
c'est presque subliminal, quoi.
Très subliminal, mais ce grand moment des hiéroglyphes dans les chiottes. Et ça crée une terreur viscérale. Qu'est-ce que c'est que cet élément qui, à ce moment-là, vient nous raconter autre chose ?
Je disais, il y a autre chose qui fait peur dans votre texte, c'est la chute, avec une autre prémonition de mauvais augure, c'est la présence des membres du Splendid. Ça, c'est très étonnant quand on le sait pas et qu'on voit le film pour la première fois.
Oui.
Dans les seconds rôles, il y a toute la bande du Splendid, donc je sais plus qui c'est qu'il y a, Gérard Jugnot, Josiane Balasco peut-être.
Michel Blanc.
Michel Blanc, voilà. Et ils sont là comme une espèce de sinistre prémonition qui plane sur le cinéma français, quoi, en quelque sorte.
Absolument, le cinéma français, sur la politique française.
Absolument.
Parce que
absolument.
La politique française, c'est le Splendid.
Tout à fait.
Hollande a fait ses études avec Christian Clavier, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte dans les mêmes écoles quand ils étaient jeunes. C'est leur contemporain, c'est leur condisciple.
Ouais, d'accord.
Et donc, entre l'amitié de Clavier et Sarkozy et l'amitié de Jugnot avec Hollande, dans tout ça, moi, je vois un fil conducteur.
Je crois que vous avez raison. Alors, je voulais avancer un tout petit peu dans le sommaire. Et je ne pouvais pas aujourd'hui, alors que Jacques Rivette nous a quitté le week-end dernier, ne pas évoquer. Alors, moi, je vais vous dire très franchement, j'ai des gens qui m'ont dit la liste des films que Thielman a choisi pour ce bouquin, c'est une espèce de must-have absolu, une espèce de liste parfaite qu'on peut amener sur une île déserte. C'est vrai que tous les films que vous choisissez peuvent se voir et se revoir à l'infini, donc on a potentiellement une filmographie presque à l'intérêt illimité simplement avec ces 12 films. Mais certains m'ont dit: que vient foutre un film de Rivette au milieu comme Céline et Julie vont en bateau? Alors moi, personnellement, je suis un inconditionnel du film de Rivette. Je ne l'ai pas vu autant de fois que vous parce que je sais que vous l'avez vu des dizaines de fois. Mais je suis fou amoureux de ce film. Est-ce que vous pouvez expliquer à ces spectateurs un peu inattentifs que Céline et Julie vont en bateau est un des plus grands films des années 70, voire un des plus grands films tout court qui ait jamais été réalisé?
Alors, je ne sais pas comment il faudrait que je m'y prenne parce que vous savez, j'ai le même problème que vous. Je suis partagé.
D'accord.
C'est-à-dire que mes amis se divisent en deux catégories, vraiment, hein, je crois, ceux qui aiment Rivette et ceux qui ne l'aiment pas.
D'accord.
Je crois que je connais très peu de gens qui n'aiment pas Lynch, très peu de gens qui n'aiment pas Kubrick, très peu de gens qui n'aiment pas Murnau. Certains n'ont pas vu tous les films de Browning, mais enfin bon, quoi, ils aiment...
Ouais. Ils aiment Frix et Dracula, peut-être, oui.
Voilà, c'est ça, ils respectent. Et alors, il y a une vraie division sur Rivette, parce que Rivette incarne pour un bon nombre de gens de ma génération, je pense que vous êtes tout plus jeune ou
un tout petit
loin,
peu plus jeune que vous, un tout petit peu plus jeune que vous.
Oui, voilà. Donc, pour les suivantes, à mon avis, c'est pareil. Il est perçu comme une statue de commandeur de la nouvelle vague.
Ouais.
c'est-à-dire comme grosso modo l'un des responsables d'un cinéma qui ne serait plus le l'un des responsables de l'empêchement d'un véritable cinéma populaire qui aurait continué en France. Et donc grosso modo cette subdivision. Or à mon avis c'est très mal connaître son cinéma qui certes ne ressemble pas du tout au cinéma de Kubrick. Mais quoique, quand on regarde les films de Rivette et les films de Lynch, on trouve beaucoup plus de ressemblances entre eux qu'on pourrait imaginer.
Absolument.
Simplement, c'est l'idée de la nouvelle vague. Et au sein de cette nouvelle vague, déjà, il y a tellement de courants différents qui pourraient s'apparenter. Mais le cinéma de Rivette est déjà peut-être un des seuls cinémas où la question du fantastique est posée dans sa pleine puissance très tôt et va perdurer même au sein des films les plus réalistes de Rivette. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que dit toujours Bonitzer. Il dit il y a toujours un élément de surnaturel dans les films de Rivette. Parfois, il est distrait. Mais il faut toujours le chercher. Aucun de ces films n'est possible sans une intervention à un moment ou à un autre de la magie. C'est-à-dire que même un film comme Va savoir, dans Va savoir, qui a l'air complètement réaliste, il y a une scène. C'est impossible d'expliquer autrement.
Il y a la thématique de la conspiration également. Il y a toujours des conspirations qui ne mènent. On n'y voit jamais très clair d'ailleurs, même à la fin des films.
Absolument. C'est un cinéma qui est magique, un cinéma qui est paranoïaque ou conspirationnel, étrange, très proche de Pynchon à ce niveau-là. C'est un cinéma qui tient énormément à des récits où des pans entiers nous manquent pour pouvoir les comprendre pleinement, type Henry James, des choses nous sont cachées, des choses nous sont données, on croit qu'on a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. En fait, il utilise toutes les formes les plus raffinées, on trouve dans son cinéma les formes les plus raffinées de narration, derrière une apparence incroyable de simplicité et presque de pauvreté. C'est-à-dire que les films de Rivette ont l'air... et du reste sont en grande partie constitués au jour le jour de scènes semi-improvisées ou écrites sur un bout de table, etc.
Voilà.
Mais derrière, une étrange volonté les mène qui au spectateur attentif, montrera toujours un film derrière le film. Et nous apprend aussi à ce moment-là à vraiment voir. Les films de Rivette gagnent énormément à être revus. Plus on les revoit, plus ils nous obsèdent. Ils sont parce que on devient attentif à certains détails qui, sur le moment, ne semblaient pas si pertinents, mais vont l'être de plus en plus. Et touche à quelque chose que je ne vois nulle part ailleurs. Céline et Jules ont un bateau pour le dire. Parce que je sens bien qu'il faut qu'il y ait aussi un élément un peu qui donne envie aux gens. C'est l'histoire de deux magiciennes. C'est la rencontre de deux magiciennes. Et ces deux filles magiciennes vont progressivement démanteler un ensorcellement. Elles vont réussir à désensorceler une situation. Et ça se joue sur plusieurs niveaux de réalité différents à la fois. Mais ça reste un film où on a l'impression de voir plusieurs journées de la vie de tous les jours à Paris dans les années 70. Il est complètement documentaire dans la manière dont les gens se comportent et vivent et agissent. Mais derrière, on a un autre récit. Et ce qu'il vient raconter, aucun autre film ne le raconte, c'est-à-dire qu'il a réussi à synthétiser de façon incroyable tous les niveaux, on va dire tout ce que produit un système d'oppression. Système d'oppression au sein de la plus petite cellule familiale. La maison de la rue du Nadir aux Pommes, c'est la totalité des modalités d'oppression à quoi peut faire face un individu des années 70, réussi à synthétiser en une sorte de petite pièce de théâtre sordide qui se répète à l'infini.
Par exemple, il y a la relation du patron au domestique, la relation des femmes à l'homme, etc. Toutes les formes de domination, comme vous dites, sont synthétisées.
On a un homme qui est à la fois l'homme qui domine deux femmes, et la façon dont les deux femmes se font la guerre pour plaire à cet homme, le patron qui domine son domestique, et la façon dont en fait il va même impliquer une dimension évidemment d'esclavage sexuel ou je sais pas quoi, de prostitution à cette domestication, la façon dont les parents dominent les enfants, la façon dont et la façon dont le théâtre ou la culture classique domine la culture populaire.
Oui, absolument. Alors ça, je voulais venir sur ce dernier point, parce que vous le développez, c'est très très important. Céline et Julie vont en bateau, c'est un film qui peut être considéré comme exigeant, mais qui précisément joue la carte de la culture populaire contre la culture académique. C'est très très c'est flagrant la vision du film, hein, quand on le voit.
C'est flagrant, ouais. C'est absolument flagrant. C'est absolument flagrant.
Alors, je voulais rapprocher Céline et Julie vont en bateau d'un autre texte que vous écrivez un peu plus tard. C'est sur Opening Night, le film de John Cassavetes. Parce qu'il me semble que l'héroïne de Opening Night et les deux héroïnes de Céline et Julie vont en bateau partagent des points communs, notamment leur volonté, pour le dire en des termes, on va dire, un peu métatextuels, pour le dire très vite. Elles sont là pour faire dérailler la fiction dont elles sont prisonnières, en quelque sorte, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, absolument. C'est absolument ça. C'est absolument ça, il y a un cousinage incroyable, au point que Pierre Thévenion m'avait soufflé que Gina Rowlands était la lointaine cousine d'Amérique avec une piscine en forme de cœur de Céline et Julie.
Ouais.
Ce personnage est évoqué, enfin cette figure est évoquée dans Céline et Julie dans les multiples déraillements dialogués de Juliette Berthaud. Le personnage de Gina Rowlands dans Opening Night, c'est une allégorie de ce que le cinéma de Cassavetes essaye de rendre possible, à savoir de sortir d'un récit destructeur et d'arriver à le faire respirer, d'arriver à le transformer, d'arriver à le faire respirer. À l'intérieur de cette pièce assez pourrie qui lui donnait à jouer, qu'on n'arrivera d'ailleurs jamais vraiment à connaître, comme le récit d'ailleurs dans Céline et Julie vont en bateau, on n'arrivera jamais vraiment à le connaître, de la rue du Nadir aux Pommes, on ne saura pas qui a tué l'enfant, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est inutile de savoir, on ne saura jamais comment se termine vraiment la pièce d'Opening Night, jusqu'au moment où on accepte que c'est inutile de le savoir, la fin qu'avait choisi l'auteur de la pièce a été jugée, en tout cas, déjà par notre slayer, notre ghost slayer, comme impropre, injuste. Et donc, ce qu'on verra, c'est comment elle réussit à faire que la vie reprend le dessus.
Ces personnages de fiction qui sont là pour en quelque sorte se libérer de la fiction dans lesquelles ils sont enchâssés, ces personnages qui luttent contre les stéréotypes dont on essaie de les accabler en quelque sorte. Est-ce que pour vous ça correspond d'une certaine manière à toute la thématique gnostique, tout le gnosticisme sur lequel vous vous êtes appuyé, un peu moins peut-être dans ce livre-là, même si évidemment la thématique revient, et notamment dans les livres précédents, celui sur Lynch, celui sur Lost, par exemple. Est-ce que vous faites un lien entre ces héroïnes et les guerriers gnostiques dont vous parlez par ailleurs ?
Vous ne pourriez pas dire mieux. encore une fois, vous faites le lien et vous avez raison de le faire. C'est évident que ça parle de la même chose. Ça parle de la même chose parce que la dramaturge de Opening Night, ou le metteur en scène, on peut dire, c'est les démiurges.
C'est les démiurges, absolument.
Et le personnage, c'est l'homme gnostique par rapport au démiurge. Et par rapport à ça, il sait que la divinité, la véritable divinité, est plus faible que lui. C'est ça qui est important, en fait. C'est de renverser notre perspective hiérarchique. Ce que les gnostiques nous apprennent, c'est qu'à chaque fois que nous voyons une hiérarchie métaphysique posée, il faut la renverser pour comprendre, en fait, exactement ce dont il est question. Si jamais le dieu qui dirigeait ce monde était un dieu juste, on le saurait.
Depuis le temps, on le saurait.
Sérieusement, quoi. Ouais, on le saurait.
je voulais simplement, parce que j'ai déjà pris beaucoup, beaucoup de temps, je voulais en venir, là aussi, à un film qui me tient beaucoup à cœur, et qui, c'est le texte que vous avez écrit sur Mr. Arcadine de Orson Welles, et oui. Qui, là aussi, et il est à rapprocher à un autre texte un peu plus loin dans le livre, c'est celui sur Chinatown de Polanski.
Absolument, les deux textes sont cousins.
Les deux textes sont cousins, ils sont d'ailleurs voisins dans le livre.
Oui.
En gros, dans les deux cas, on nous présente des sortes de figures, donc Gregory Arcadine dans le film d'Orson Welles, oui. Et le personnage incarné par John Huston, Noah Cross, dans Chinatown. En fait, ce sont deux personnages qui sont des espèces d'agents de la contre-initiation, comme vous le dites, pour reprendre les termes, à la Guénon, quoi. Hein,
oui,
on va dire. Est-ce que vous voyez, là aussi c'est pour essayer de faire des ponts dans votre travail, des ponts internes, je veux dire, est-ce que vous voyez ces agents de la contre-initiation, ces espèces de suppôts du mal absolu, qui sont vraiment des personnages les plus détestables possibles, quoi, hein ?
Oui.
Est-ce que vous les voyez comme les pendants négatifs, en quelque sorte, de ce que vous appelez, enfin, que Guénon appelle là aussi, le roi caché du monde, Jacob dans Lost, par exemple, exemplairement.
Ah oui, absolument. Absolument. Sauf que, comment dire, c'est difficile Lost fait le pari d'essayer de nous montrer ce que pourrait être un roi du monde. C'est une figure, en effet, je crois, qui n'a pas son équivalent dans le cinéma. Je n'en vois pas.
Ouais.
Je peux me tromper. Je n'en vois pas. Je ne vois pas de figuration du roi du monde dans le cinéma. Et dans la série, soudain, on essaye d'imaginer ce que ça pourrait être avec Lost. Mais bien sûr, en fait, plus exactement, si je dois être un peu pinailleur, ces agents de la contre-initiation sont présentés plus comme des caisres inversées,
ouais.
Des caisres du mal. Le caisre, c'est le représentant du roi du monde dans le monde manifesté. Et le caisre, qui est une figure qui apparaît surtout, évidemment, son nom l'indique, dans le monde arabe, mais en fait, qui a des équivalents ailleurs. Dans le caisre, sa première apparition est dans le Coran. Lorsqu'on voit, c'est comme si le Coran nous racontait une scène auquel on avait échappé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est une aventure de Moïse qu'on connaissait pas.
Ouais.
C'est Moïse qui est perdu dans le désert et qui a perdu son poisson et qui allait manger et qui retourne en arrière pour chercher ce poisson. Et il y a soudain cet homme et le Coran l'appelle juste un des hommes que nous étions choisis. C'est Dieu qui parle. Et qui a une antériorité. Qui a une antériorité par rapport à la révélation mosaïque. Et donc, qui lui, grosso modo, est au courant de comment fonctionne le monde. Le roi du monde, c'est celui qui est gardien des règles.
Ouais.
C'est le manus, le gardien des règles. Et le caisre, c'est une sorte de représentant. C'est quelqu'un que les hommes sont supposés croiser au moins une fois. Au moins une fois dans nos vies, à un moment, il y a quelqu'un qui est supposé nous indiquer une direction ou nous montrer une direction est possible.
Et on est tous concernés, hein ?
Et on est tous concernés, ouais. Absolument. On est absolument tous concernés. Et alors, cette figure-là aurait son pendant, c'est une hypothèse, hein, évidemment. Qui suis-je pour parler ? Mais c'est une hypothèse. Il y aurait, et ça c'est une idée que développe la littérature fantastique et le cinéma fantastique, très souvent on a ces personnes, ces sortes d'indicateurs d'un terrain dangereux dans lequel on s'aventure, qui seraient des caisres du mal. Noah Cross est précisément une sorte de caisre du mal. Il apparaît deux fois. Il s'agit véritablement du territoire de Los Angeles. Il apparaît trois fois, mais il apparaît deux fois en tant qu'indicateur, quoi.
Ouais.
On peut pas s'empêcher, quand on revoit le film à plusieurs reprises et quand on le nourrit aussi d'autres films qu'on a vus et auxquels on peut l'associer, comme Mulholland Drive, on peut pas s'empêcher de le rapprocher de ces figures qui disent, comme le cow-boy dans Mulholland Drive. Mieux vaut que tu n'ailles pas plus loin.
Ouais. Tu me verras une fois, sinon tu me verras deux fois.
Tu me verras deux fois. On peut retrouver aussi ce type de figure dans Shining.
Ouais.
Alors je sais pas qui ce serait dans Shining, mais ça pourrait être le barman,
ouais.
ou être évidemment l'ancien caretaker qui change de prénom.
Grady. Ouais.
Et Mais c'est ces types de figures qui sont une antériorité et qui connaissent le territoire et qui nous préviennent. Mmh. À partir de ce moment-là, faites gaffe là où vous entrez, ça va aller mal pour vous. Ouais. Mais en même temps, ils représentent aussi, comme vous dites, ça c'est le point commun avec Arkadine, c'est un actif de la contre-initiation. Mmh. C'est un agent dans le sens où il produit précisément les conditions du pire. Mmh. Il le produit en connaissance de cause.
Ils ont aussi le point commun d'être d'ailleurs d'avoir des relations incestueuses avec leurs enfants. Ils ont les deux
absolument.
Ont ce point commun. C'est assez remarquable. Vous faites d'ailleurs le parallèle avec la peinture de Goya sur Saturne dévorant ses enfants, qui est un peu une représentation de ces deux figures-là. J'avais une question par curiosité personnelle. Oui. Je suppose que vous avez vu la saison 2 de Trou Détective. Je sais que vous aviez beaucoup aimé la première. Vous aviez
absolument.
Écrit sur le sujet. Vous n'avez pas vu des points communs avec Chinatown sur les problèmes d'eau empoisonnée, etc. Je suppose que si on creusait, il y aurait peut-être même des points communs à chercher plus loin. Il y aurait là aussi des caisses du mal peut-être à aller chercher.
Ah. Vous me l'éclairez d'un autre jour.
D'accord. Je ne dis pas que je suis fanat de la deuxième saison, hein, mais j'ai trouvé le point commun avec Chinatown extrêmement intéressant. Je pense que c'est voulu de la part de Pizzolatto.
Oh oui, vous avez raison, vous avez raison. Bon. Vous avez raison, il y a certainement quelque chose qui a cherché de ce côté-là. Cette saison-là a malheureusement pâti du succès extraordinaire de la première
absolument.
Saison.
Absolument, et des attentes un peu démesurées, ouais.
Et donc, oui, l'enthousiasme démesuré sur la première saison, qui était une très bonne saison,
oui.
Évidemment. Et je crois surtout l'importance des acteurs et tout ça, fait que la deuxième saison a été dès son apparition incroyablement bâchée.
Ouais.
Et vraiment un pizzolatto bashing.
Oui, de manière totalement excessive et injuste, d'ailleurs.
Et tout à fait, et tout aussi excessive. C'est-à-dire que, oui, si le... Comme dirait Dostoïevski, si le juge était plus juste, le coupable apparaîtrait peut-être innocent. Si le spectateur était moins enthousiaste sur la première saison, la deuxième saison lui apparaîtrait probablement meilleure.
Absolument.
Et il faudrait la réinterroger dans celle, bien sûr, c'est très clair qu'il a voulu traiter de l'histoire maudite de la Californie. Mm. Et en ce sens-là, il y a des points de convergence à faire avec Chinatown et avec même la lecture, une sorte de lecture lynchéisée de Chinatown.
Oui,
c'est-à-dire que Chinatown, traversé par les films de Lynch,
ouais.
traversé par Mulholland Drive,
ouais.
mais déjà Twin Peaks, Trou Détective essaye dans sa deuxième saison d'opérer à son tour une lecture transformatrice de ça.
Ouais.
Ce que j'avais trouvé très intéressant dans la deuxième saison, c'est que pour moi, il y avait un conflit interne dans cette saison entre ce qui était de l'ordre du cinéma et ce qui était de l'ordre de la série. C'est vraiment le lieu du débat. La première saison, en fait, ce qui avait fonctionné, et elle avait beaucoup fonctionné sur les gens nostalgiques du cinéma, c'était le fait qu'elle avait une logique. Logique appartenant pleinement au cinéma. Je m'explique. Le récit entièrement tenu d'un bout à l'autre par un scénariste et un réalisateur unique.
Oui, tout à fait.
Mmh. L'idée aussi d'un récit bouclé sur lui-même qu'on pourra revoir à l'infini, mais qui redira la même chose. Qui sera comme les personnages enfermés dans le récit.
Oui.
Et l'impossibilité pour ce récit, en fait, une impossibilité qui est presque artificielle de se continuer. Il fallait qu'il soit bouclé sur lui-même.
Mais tout à fait.
Impérativement. Tandis que dans
juste.
La deuxième saison, on a deux personnages de nouveau qui appartiennent au genre romanesco-cinématographique, au genre presque du roman noir, hein, même, on pourrait dire directement, avec leurs caractéristiques et leur destin. Et le destin du personnage du mafieux qui s'est refait rejoue complètement celui de Al Pacino dans Carlito's Way, à savoir qu'il va tout régler, sauf le petit détail qui l'amènera à la mort et qui est le petit mec qui l'aura méprisé, celui qui l'attendait pas.
Ouais.
La mort lui viendra de là où finalement il aura été hiérarchiquement injuste ou un truc comme ça. Et l'autre, qui qui lui appartient au genre du flic qui du flic qui s'est enténébré, ouais, et qui malgré tout va essayer sur une dernière affaire
de se racheter.
Voilà, de se racheter. C'est des personnages du roman noir, c'est des personnages du film noir. Et soudain, on a en face d'eux un personnage de série télé, véritablement. C'est le personnage de Rachel McAdams. Il n'appartient pas au code ou au canon du roman noir ou du film noir. C'est la petite sœur de Buffy, de Veronica Mars.
C'est la véritable héroïne de la saison, d'ailleurs. Hein. C'est assez flagrant, quand même.
Oui. Ouais. Et c'est la petite guerrière gnostique.
La fameuse.
Mais ouais.
Alors, j'avais deux petites questions pour terminer. Enfin, pas deux petites questions, c'est pas des petites questions, mais j'ai déjà pris beaucoup de votre temps. La première, ça concernerait évidemment un texte qui est très très fort dans le livre et qui le conclut. D'ailleurs, c'est le texte sur Shining de Stanley Kubrick. Et d'ailleurs, il le conclut et il inclut lui-même un épilogue global, quoi, à tout le livre. Hein. Shining, alors je vais le poser très directement la question. Est-ce que pour vous, Shining est le film le plus crucial de l'histoire du cinéma?
Bah oui, pour moi, oui.
C'est pour aussi moi. Catégorique que ça. Je voulais entendre votre sentiment là-dessus. vous le dites quasiment dans ces mots dans le texte. Hein, de
bah
toute
oui,
façon.
Oui.
Alors, en quoi Shining est-il ce film peut-être le plus crucial de l'histoire du cinéma?
Parce que je ne connais pas un spectateur qui n'ait pas réussi à y voir la figure de son propre cauchemar. Et en ça, quelles que soient les explications qu'on donne à ce phénomène, c'est miraculeux. C'est miraculeux, c'est-à-dire que le film Room 237, sur lequel je reviens, et sur lequel il y aurait beaucoup à dire, en bien comme en mal,
tout à fait.
A au moins cette qualité de montrer la diversité des interprétations extrême qu'on peut en faire. Mais en fait, sans être aussi extrême que les spectateurs exégètes de Room 237, il accomplit une des dimensions possibles du cinéma. Et je suppose, c'est dans ce film-là que quelqu'un raconte l'intérêt qu'a eu Kubrick pour la publicité. À savoir les différentes façons qu'on avait de suggérer des choses de façon le plus subliminale possible, de jouer vraiment avec les porosités dans la conscience du spectateur, d'arriver vraiment alors à mettre en scène. On dit Hitchcock met en scène le spectateur, Kubrick met en scène la zone obscure, la chambre 237 du spectateur qu'il y a dans chaque spectateur. Et ça, je trouve ça. J'ai pas de mots pour. Ça dépasse, comment dire. Vraiment, on peut.
C'est assez adéquat finalement que vous disiez que vous n'avez pas de mots, parce que c'est précisément un peu le sens de ce que dit Kubrick, qu'au bout d'un moment, les mots ne suffisent pas précisément et qu'il faut.
Exactement. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à jouer sur quelque chose qui échappe totalement au langage. Et ça, c'est quelque chose qui est fou. C'est-à-dire qu'il a réussi à toucher le point où le spectateur peut faire marcher son cerveau presque à vide, c'est-à-dire ça marche et les mots ne suffisent jamais. C'est un comment dire, bien sûr il y a d'autres films qui réussissent ça absolument. Il y a d'autres films qui réussissent ça, mais je sais pas dans quelle mesure ils ne sont pas comme des dépendances de Shining, comme on dit qu'un lieu est une dépendance d'un autre domaine.
Absolument.
C'est le domaine Shining. C'est-à-dire que quand Lynch touche ça, il touche au domaine de Shining. Et j'ai vraiment ce sentiment. C'est-à-dire que...
Il est encore sous le parrainage de Kubrick, d'une certaine manière. Shining absolument. Recouvre les films qui lui doivent beaucoup.
Exactement. Il est disciple. Il est disciple d'une révélation qui est celle de Shining. De Twin Peaks jusqu'à Inland Empire, on a une continuité chez Lynch. Autour de la Red Room, mais cette Red Room elle-même, on peut dire, est une sorte de miroir de la chambre 237. C'est comment on peut dire que c'est un phénomène qui est déjà dans les récits d'horreur, oui, mais les récits d'horreur, malgré tout, même chez les plus grands, leurs plus grands auteurs comme King, en fait, c'est vraiment le film est vraiment un duel avec King à ce niveau-là. Ouais. Ils comprennent leur champ de signification. Mm. C'est-à-dire que ce sont des films d'horreur, mais ils ont un domaine dans lequel ils vont réussir à nous faire produire des images. Mm. Shining n'a plus de domaine. Son domaine, il est étendu partout. Mm-hmm. On vient avec sa question et Shining nous donne la forme dans laquelle on doit l'interroger. Mm. C'est très très singulier. Je connais pas d'équivalence à ça. J'en connais aucune.
C'est un film unique donc dans l'histoire du cinéma.
Unique, unique en ce qu'il produit sur le spectateur. Mm. On peut aller loin dans l'interprétation de Suspiria ou de Chinatown ou du Locataire. Ouais. On peut aller très loin, mais je veux dire, on peut pas venir avec la question des Indiens d'Amérique et dire le Locataire va nous répondre.
Ouais.
Mm. Par contre, on peut venir avec n'importe quelle question pour Shining. C'est ça qui est flippant.
Et le film va nous répondre.
Le film va nous répondre. Mm.
Alors, il y a un passage dans le texte sur Shining. Alors, moi je vous contacte ici depuis La Soule, une des provinces du Pays Basque. Alors, on est en pleine période du carnaval. Vous me voyez venir à mes gros sabots.
Ah, oui, on est le 3 février.
Et donc, en fait, dans le carnaval souletin, ce qu'on appelle la mascarade, c'est marrant parce qu'un de vos textes s'appelle Des Mascarades, celui qui est consacré à Mister Arcadine. Dans la mascarade, nous, en Soule, ou peut-être... On est relativement un tout petit peu plus connecté qu'ailleurs à certaines traditions, j'y vais très très prudemment. Il y a le l'ours qui rentre en ligne de compte. On tue l'ours et il ressuscite dans le carnaval souletin, tout comme le personnage principal de la mascarade qui s'appelle Pichou, qui est en fait un peu une image de l'ours qui meurt et qui ressuscite. Il y a un plan de Shining sur lequel vous vous attardez très longuement, c'est brillant comme exercice d'ailleurs, c'est celui où il y a l'espèce de teddy bear, donc l'ourson en peluche, un peu monstrueux, qui prodigue une fellation à un autre personnage d'ailleurs, soit dit en passant. Et là-dessus, vous partez sur un délire à la Michel Pastoureau, on peut dire, le médiéviste qui a écrit sur l'ours, ce roi déchu. Et en fait, bon, c'est là que je voulais en venir. Vous revenez à la question qui traverse tout le livre, et je subodore que vous allez bientôt consacrer un ouvrage à la question. C'est la question du carnaval.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et on terminera là-dessus.
Oui. Encore une fois, c'est le film qui m'y a amené. Mm. J'étais obsédé par cette image de l'ours et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis tombé un jour grâce à une amie artiste qui s'appelle Clémentine Melois qui m'a dit tu devrais lire Gagne-B, ça va te parler.
Claude Gagne-B. Hein,
Claude Gagne-B. Mm. Qui a écrit sur le carnaval, qui a écrit sur Rabelais, qui a écrit sur le langage obscène des enfants et qui a écrit sur le carnaval.
Il a fait une émission de radio sur le carnaval au Pays Basque, justement.
Mm. Oui, oui, absolument.
On y a accès par sa page Wikipédia.
C'est surtout un parleur plus qu'un écrivain, d'ailleurs.
D'accord.
Puisque son livre qui s'appelle Carnaval, c'est la reproduction de textes qui sont des improvisations, enfin des improvisations radiophoniques. Mm. C'était un folkloriste d'une érudition absolument fabuleuse, extraordinairement libre, extraordinairement drôle aussi, et qui a travaillé de façon obsessionnelle sur les contes et sur les coutumes. Mmh. Et le livre donc qui s'appelle Carnaval, qui est le premier que j'ai ouvert de Claude Gagne-B, s'ouvre sur justement la sortie de l'ours. Le début de l'année par carnaval, avec la sortie de l'ours.
La déshibernation de l'ours,
exactement. Mmh. Et le fait que l'ours, à ce moment-là, pète, et ce sont les âmes des morts qui sortent.
Mmh.
Et en lisant ça, je me suis dit, peut-être que la réponse à mon obsession par rapport à ce plan de Shining...
Elle est là.
Voilà, elle est là. Elle est peut-être liée à ça.
Mmh.
Et à ce moment-là, c'était pas du tout évident pour moi d'arriver à reconnecter les choses, surtout que dans le roman de King, ce n'est pas un ours. Enfin, cette scène n'existe pas.
C'est un apport de Kubrick, donc.
Oui, c'est un apport de Kubrick, qui lui-même était obsédé par les contes de fées et par le folklore et par tout ce qui était en rapport avec l'enfance et avec les visions des enfants. Je ne sais pas d'où vient cette image pour Kubrick. Il se trouve que dans le roman, il y a une vision par l'enfant, pas par la mère, d'un homme déguisé en petit chien qui erre dans les couloirs. Et on sait par les comptes rendus de l'histoire de l'hôtel que lit à un moment Jack Torrance dans le roman, que c'est un acteur de cinéma célèbre, amoureux du directeur de l'hôtel, qui veut passer une nuit avec le directeur de l'hôtel. Le directeur de l'hôtel lui dit « J'accepte de passer une nuit avec toi, mais il faudra pour ça que tu viennes déguiser en petit chien. » Bon, c'est probablement la source de cette image, mais elle ne dit plus la même chose. D'abord parce que le directeur de l'hôtel n'apparaît plus dans le film de Kubrick, et que ces deux personnages-là n'apparaissent qu'une fois, et le transformation de l'image du chien en image d'ours raconte précisément autre chose. Et surtout le fait que ça s'adresse plus non plus à l'enfant, mais à la mère, et en plus le fait que cette image-là, la mère la vole. Elle n'est pas supposée la voir. Il ne se manifeste pas à elle, c'est elle qui les débusque. Et donc à ce moment-là, ma question c'était, est-ce que toute l'histoire en fait, de la question de la du domaine du fantastique ne naît pas de la disparition progressive des procédures carnavalesques.
Voilà, c'est la question un peu secrète du livre, quoi, en quelque sorte.
Absolument, puisque le livre se base surtout sur du cinéma fantastique, il y a quelques exceptions, mais de toute façon, les films qui ne sont pas fantastiques sont traités comme des films fantastiques. Chinatown,
ouais, ou absolument.
Opening Night, enfin, il y a une dimension fantastique.
Enfin, il y a toujours une dimension, par exemple, pour prendre l'exemple de Chinatown, s'il n'y a pas une dimension directement fantastique, il y a une dimension orphique, comme vous le dites, qui peut être rattachée de toute façon aux mêmes thématiques d'une certaine manière.
Oui, absolument. Absolument. Voilà, en sous-texte, la question du livre, c'est celle-là. C'est est-ce que le fantastique n'est pas là pour nous expliquer que lorsque on cesse de respecter les procédures carnavalesques, elles ne se retournent pas contre nous, elles ne reviennent pas, mais comme des monstres, comme des monstres qui viennent nous hanter.
D'où...
Et le fantastique comme expression métaphysique des temps modernes, les temps modernes à ce moment-là perçus comme véritablement les temps où disparaissent les procédures carnavalesques. Donc là...
Le genre fantastique, c'est la métaphysique de notre temps pour vous ?
Voilà, c'est ça. Oui.
D'accord.
Oui. Oui.
Bon.
Oui.
Vous avez choisi d'écarter un des textes qui était prévu dans le livre, c'est 8,5 de Fellini. Alors, je le précise d'ailleurs, sur votre site, il est tout à fait consultable, hein, le texte, vous l'avez mis en ligne. Alors, je trouve que dans le texte sur Fellini, il y a une phrase que vous dites qui résume à merveille peut-être le travail que vous faites maintenant depuis 10 ans. C'est quand vous dites à un moment donné dans le texte que la pensée doit être une boussole d'orientation et pas un plan de construction pour le futur. Les plans de construction pour le futur, c'est déjà la contre-initiation, c'est ça ?
J'avais oublié que j'avais écrit ça, mais alors vous devez faire chandelle de me le rappeler.
En fait, je trouve que c'est là que vous expliquez le mieux ce que vous entendez en parlant d'orientation, qui est une notion essentielle pour comprendre ce que vous expliquez.
Bah oui, enfin c'est en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire s'orienter sur ce qui est plus que de proposer une sorte de système idéologique.
Quitte à faire face au chaos, quitte à faire face aux aléas, aux drames et aux tragédies.
Voilà, exactement, exactement. Ne surtout pas empêcher la vie d'apparaître dans tout ce qu'elle peut avoir, même de plus dangereux.
Dans toutes ses dimensions.
Simplement avoir une boussole, c'est avoir quelque chose qui nous permet de l'affronter. En fait, c'est mieux résumé par la chanson de Mahalia Jackson, qui est Lord, don't move the mountain. Cette chanson dit Dieu, ne déplace pas la montagne, donne-moi la force de la parcourir, de la traverser. C'est ça en fait l'idée de la boussole d'orientation. C'est ne pas empêcher la vie, même dans ce qu'elle a de pire, d'arriver, parce qu'on ne sait pas. Parce que c'est l'inconnu, parce que l'inconnu et parce que c'est l'épreuve, nous donner la force de l'affronter.
Merci infiniment, pas comme Tillemant, de votre disponibilité. Je suis désolé, ça a été très très long. J'espère que les auditeurs se sont autant régalés que moi.
Et je sais pas, mais moi en tout cas, je me suis régalé. vous m'avez apporté énormément. Je vous suis d'une extrême gratitude.
Et moi de même, c'est très très gentil à vous d'avoir consacré autant de temps et j'espère pouvoir vous avoir peut-être pour la sortie de votre prochain ouvrage. Je sais que vous travaillez sur différentes pistes. Qu'est-ce qui va venir en premier d'après vous? Rimbaud peut-être?
Mais vous êtes très informé. Non, ce sera pas Rimbaud.
D'accord.
Non, je ne suis pas encore prêt.
D'accord.
Normalement, si tout va bien, si le démiurge m'épargne et si la divinité m'oriente, ce sera le petit livre que je veux consacrer à la découverte des manuscrits de Nag Hammadi.
D'accord, sur lesquels vous travaillez actuellement.
Oui, c'est pas les manuscrits, d'ailleurs j'ai dit une bêtise, c'est les codex, quoi. Enfin, c'est les textes de Nag Hammadi. L'histoire de cette découverte, les implications de cette découverte, et j'aimerais, pour la première fois en tout cas, essayer quelque chose qui me semble extrêmement délicat, mais j'aimerais beaucoup tenter, qui est l'interprétation d'un fait historique, presque l'exégèse d'un fait historique.
Ouais. Ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, en fait.
Non.
D'accord. Eh bien, on vous suivra avec plaisir dans cette nouvelle aventure. À très bientôt, pas comme Tielman, je l'espère.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Encore un dernier grand merci donc à Pacom Thielemans qui nous a fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Pour ce qui a été des différentes pauses musicales donc qui ont émaillé cet entretien, donc on a commencé, comme je le disais en ouverture, avec la reprise du thème de Halloween par John Carpenter. C'est signé par les Secret Chiefs 3 de Trace Prudence. À côté de ça, on a écouté She is young, she is beautiful, she is next, morceau de Perturbator, extrait de son dernier disque Dangerous Days. On a écouté une très belle ballade au parfum d'Americana signée par le groupe de metal hardcore Only Living Witness. Le morceau s'appelait Hank Crane. Et on a également écouté un morceau de Killing Joke, extrait de leur album Killing Joke, tout simplement, sorti en 2003, et le morceau qu'on a écouté s'appelle You Never Get To Me. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une nuit douce et sans danger. Je vous dis à la semaine prochaine. Adio. Ciao.